Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huiban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229-94-01-54-26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?
Vu le sujet du jour, nous allons donc demander si vous avez des questions par rapport au thème du jour. Donc vous allez les poser rapidement pour pouvoir faciliter la tâche aux conférenciers. Merci. Question. Comment exercer concrètement sa foi pour déplacer des montagnes? Thème du jour. Question.
Merci. Je souhaiterais savoir concrètement ce que c'est que la foi, ses manifestations et à quel indice pourrons-nous juger que quelqu'un a la foi? Comment pourrons-nous juger que quelqu'un a de la foi?
Autre question.
Moi, ma question, c'est qui est-ce qui peut exercer la foi? Bon, dans le thème, j'ai lu aussi concrètement. Est-ce qu'on peut ne pas exercer sa foi concrètement? Est-ce qu'on peut faire semblant d'exercer sa foi?
Qui a d'autres questions?
Bonsoir. Le thème, c'est comment exercer concrètement sa foi pour déplacer des montagnes. Au cours de cette formation, est-ce que nous pourrions avoir des exemples vécus? On parle de déplacer des montagnes, ce n'est pas la foi qu'on exerce couramment. Il faut que ce soit des choses qui sortent quand même de l'ordinaire. Ce serait bien qu'on ait des exemples. Comme vous avez dit concrètement, nous voulons avoir des exemples concrets, vécus, parce que la foi vient de ce qu'on entend, donc que nous puissions avoir beaucoup d'exemples. Et puis la notion de montagne, est-ce que ce n'est pas, quand on parle de montagne, pour déplacer des montagnes, ce qui est montagne pour quelqu'un peut ne pas l'être pour un autre, là où quelqu'un exerce facilement sa foi pour un cas que quelqu'un trouverait extraordinaire pour l'autre. Que peut-on appeler vraiment montagne? Merci.
Qui a autre question? Alors, j'ai un petit mot sur le thème que je vais partager avec vous en attendant que le conférencier ne continue. Alors, le mot foi dans l'Ancien Testament n'apparaît, le mot foi n'apparaît rarement et ne comporte qu'occasionnellement l'idée familière de confiance. Pourtant, de nombreux thèmes expriment la notion, y compris croire, confiance et espérance. Dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît plus de 300 fois. Il est intimement associé à l'œuvre du salut apporté par Christ. Comme on l'entend dans Hébreux 11, verset 1er, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est là, donc l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses propres efforts et s'en remet à Jésus pour obtenir le salut. La foi est aussi la clé de notre salut, car pour profiter donc du cadeau de la nouvelle vie, il suffit simplement de mettre sa confiance en Dieu par la foi. Alors, les problèmes, les montagnes peuvent signifier les difficultés que nous rencontrons en voulant donc exercer librement ce que nous voulons faire. Voilà ce que je peux dire. Je laisse continuer le conférencier. Donc, sous vos ovations, nous allons donc accueillir M. Edgar Guidibi. Merci.
Prions. Excellent Père de gloire.
Je veux te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné encore aujourd'hui la grâce de nous retrouver pour partager ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous donnes aujourd'hui encore la grâce de nous retrouver pour faire reculer l'ignorance. Afin de réussir Seigneur, de réussir d'abord pour nous, mais aussi de réussir pour témoigner de ce que tu es vraiment Seigneur. Qu'il te plaise Seigneur, comme toutes les fois, de rentrer maintenant. Nos cœurs, cette salle, ce club, ce pays, lève maintenant leur linteau pour t'accueillir, Seigneur. Dispose chacun de nos cœurs, Père Tout-Puissant, pour être terre fertile pour ta parole. Donne-nous de la recevoir. Utilise-nous pour la donner, Père Tout-Puissant. Que notre personne disparaisse et que ta gloire se manifeste dans ces paroles, Seigneur. Afin que chacun et chacune de celles qui sont ici reçoivent aujourd'hui un réma, c'est-à-dire une parole personnelle venant de toi spécialement pour eux, Seigneur. Utilise-nous, Père Tout-Puissant, comme un instrument docile et souple dans tes mains pour accomplir ta gloire, pour faire ta volonté, pour impacter des vies, pour transformer des gens, pour édifier des gens, pour fortifier des gens, pour encourager des gens, pour équiper des gens afin qu'ils remportent victorieusement tous les jours et pour toujours le combat de la foi. Oui, tu as dit, Père Tout-Puissant, que nul ne peut être agréable sans la foi. Donne-nous la révélation de cette parole-là. Donne-nous, Seigneur, d'être équipés concrètement, pratiquement, de manière très, très pragmatique pour manœuvrer l'épée de la foi, pour déplacer des montagnes avec la foi, Seigneur. Viens, Seigneur, viens comme toujours. Prends le contrôle, prends les dessus. Manifeste-toi puissamment comme tu l'as toujours fait. Reçois notre louange, notre adoration, toi qui es magnifique, toi qui es merveilleux. Parce que comme toujours, nous savons que tu es déjà là. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Christ Jésus, je prie. Alors, nous allons parler aujourd'hui à nouveau de la foi. Ça doit être la troisième fois qu'on en parle dans ce club. Et je pense qu'on n'en parlera jamais assez. À savoir comment exercer concrètement sa foi pour déplacer des montagnes, pour traverser des temps comme ceci, pour réussir des miracles. Qu'est-ce que vous avez noté comme attente? Qu'est-ce que c'est que la foi? Ces manifestations? Comment peut-on savoir que quelqu'un a la foi? Qui peut exercer la foi? Peut-on faire semblant d'utiliser sa foi? Ou pourquoi le mot concrètement? D'accord. Pourrions-nous avoir des exemples concrets sur le thème? Des exemples concrets sur quoi? Qu'est-ce que vous appelez des exemples concrets sur le thème? Oui.
Nous voulons des cas vous concernant. Ou des cas de personnes dont vous avez été témoin de la manifestation de la foi, ou alors des exemples que vous avez vus autour de vous.
Alors donc c'est ça, des exemples concrets sur le thème, c'est ça?
Oui.
Ok, ensuite, que peut-on vraiment appeler montagne? D'accord. Exemple d'hommes de foi de notre période, donc les deux questions se recoupent. Est-ce que toutes les montagnes sont érigées par l'ennemi? D'accord. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce que tout homme peut avoir la foi?
Ok, ensuite, oui. Quoi d'autre? Des attentes par rapport à la foi pour ceux qui viennent d'arriver? Non? Parfait. On va y aller. Alors, que le Saint-Esprit nous guide. Pourquoi je vais parler de concrètement? Parce que, en général, en tout cas si on est chrétien, c'est généralement parce qu'on a l'habitude d'entendre parler de la foi. On nous parle de foi, il faut avoir de la foi à la limite. La foi est l'essence du fait d'être chrétien, du fait d'avoir une religion derrière quelle qu'elle soit. Mais tout le monde parle de la foi comme si c'était une théorie ou un concept ou un idéal. Mais pas suffisamment de mon point de vue comme quelque chose de concret qu'on exerce, qu'on pratique au quotidien. Et d'ailleurs, vos questions sur le fait de savoir des exemples d'hommes de foi de notre période sont très illustratives de ça. Mais vous n'êtes pas censé chercher des hommes de foi de notre période. Chacun de vous a intérêt à être dès aujourd'hui un homme de foi. Sinon, tout ce que vous faites ici, vous perdez votre temps. Vous ne pouvez rien obtenir de Dieu sans foi. La Bible est claire. Il est impossible. Vous connaissez pas le sens du mot impossible? Il est impossible, c'est-à-dire ce n'est pas possible, on ne peut pas, ensemble vide, d'être agréable à Dieu sans la foi. Or, celui qui n'est pas agréable à Dieu ne peut pas être béni par Dieu. Quelque chose ne peut pas m'énerver, parce que ce qui ne m'est pas agréable m'est désagréable. Quelque chose ne peut pas m'être désagréable et je vais le bénir. Quelque chose ne peut pas m'être désagréable et je vais l'écouter. Quelque chose ne peut pas m'être désagréable et il va m'évoquer, je vais le répondre. Quelque chose ne peut pas m'être désagréable et que je le protège, et que je le nourrisse, et que je l'habille, et que je pourvoie à ses besoins, et que je le sauve, et que je le rachète. Non, quand on vous dit qu'il est impossible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas qu'il est conseillé d'avoir la foi, il est souhaité d'avoir la foi. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc on pourrait très bien dire, tout ce que vous demandez à Dieu là, il est impossible de le recevoir sans la foi. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec la foi, que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Et il ajoute, mais que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. Comment peut-être plus clair que ça? Ce que vous demanderez avec la foi, évidemment il a dit avant, si je demeure en vous et vous en moi, on va voir ça tout à l'heure. Tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Surtout si vous croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire si vous avez de la foi. Mais il ajoute, C'est-à-dire, reformule ça à l'envers. Au cas où vous n'allez pas bien comprendre, vous allez vous dire que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Mais que celui qui n'a pas de foi, que celui qui doute, parce que le contraire de la foi, ce soit le mépris pour ceux auxquels il faut croire, ou la tentative de croire, mais avec des doutes, donc il prend la partie qui est encore la plus excusable. Il n'est pas que celui qui ne croit pas, hein. Il n'est que celui qui doute. C'est-à-dire, dont la foi vacille, d'ailleurs, qui est celui qui est balancé, comme les flots de la mer, tantôt à gauche, tantôt à droite. Que celui qui doute, mais nous le rirons, c'est pas même à dire nous, hein, mais le rirons, ne s'imagine pas, qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. Comment on peut être chrétien avec des paroles aussi catégoriques que ça de Jésus et ne pas être un expert de la foi? Qu'est-ce que vous venez chercher à l'église? Qu'est-ce que vous venez chercher en tant que chrétien? Puisqu'il vous est impossible d'avoir quoi que ce soit sans la foi. Donc, si quelqu'un rentre à l'église ou devient chrétien, il ne maîtrise pas la foi, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il n'a rien d'autre à maîtriser, tout le reste ne lui sert à rien. La foi, c'est le fondement de tout en Jésus. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes rachetés. C'est par la foi que nous confessons que Jésus est Seigneur. C'est par la foi qu'on fait tout ce qu'on fait. Donc, si quelqu'un n'a pas la foi, il n'a rien. La question, c'est quoi la foi? Donc, ne considérez plus que c'est un luxe qu'ont eu des grands hommes. Ne considérez pas que c'est le privilège des Abraham et consorts. Maintenant, ils sont morts de nos jours. Bon, on n'est plus obligé d'avoir la foi. Il y a quelques ayatollahs quelque part, ou bien quelques moines qui ont de la foi. Mais dans ce cas, ça expliquerait pourquoi vous tournez en rond, vous appelez Dieu tous les jours, mais vous ne voyez rien. C'est comme si vous allumez une machine tous les jours, il n'y a pas de courant dans votre maison. Il faut arrêter de l'allumer. Sans la foi, vous n'avez pas de courant. Pourquoi vous avez des machines? Et justement, vous êtes surpris de voir que vous faites tout, les machines ne démarrent jamais, alors que vous avez des machines. Et parce que vous n'avez pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'allumer quelconque ordinateur, d'allumer quelconque appareil par le temps qui court. Et dès que votre foi s'éteint, est en panne, vous coulez. Toutes les machines s'éteignent. Quand Pierre, Jésus lui a demandé de marcher sur les eaux, tant qu'il avait la foi, il marchait sur les eaux. Dès que sa foi est tombée en panne, il a coulé. Et pourquoi sa foi est tombée en panne? Parce qu'il a commencé à contempler, à regarder de près l'énormité du défi auquel il était confronté. Ça lui a fait douter de la capacité qu'il a en Dieu de marcher vraiment sur les eaux. Et c'est dans le genre, tu vois Jésus, donc tu es impressionné, comme un enfant, tu es en euphorie. Il dit, viens. On ne sait pas quand est-ce qu'on commence à aller vers lui. Et en marchant vers lui, mais attends, c'est moi-même qui suis en train de marcher sur les eaux. Comment c'est possible? Mais quand même, c'est les eaux. En disant, c'est là qu'il a commencé à couler. Parce qu'au début, il avait le regard sur Jésus. Comme votre enfant est sur un étage, 3 ans. Dites, ma chérie, saute. Elle va faire comme ça. De 3 étages, elle va vouloir sauter dans vos bras si vous êtes en bas. Si vous ne savez pas faire votre, il va sauter. À cet âge-là, ne réfléchis pas. C'est pour ça que Jésus dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Aucun adulte ne peut être au 5e étage, va voir son papa en bas, va lui dire sauter, va sauter. Il dit, pas, oh, ne déconne pas. Si vous voulez, mieux, il va commencer à dire, oui, mais comment il va m'attraper, et puis ci, et puis ça. Si c'est une petite fille, 1 an, 2 ans, 3 ans, son papa dit, saute ma chérie, elle ne va même pas lui poser une question, elle saute. À cet âge-là, elle a une foi totale dans son père. Elle ne réfléchit pas. Quand son père a dit, c'est que c'est vrai. Elle ne veut pas réfléchir, voir la hauteur, voir la probabilité, voir les chances, voir la force, voir la position de son père. Elle saute. Et c'est pour ça que Jésus dit que le royaume des cieux ne peut être conquis que par les gens qui ont le cœur d'un enfant. Et quand on dit à Pierre, marche sur les eaux, comme tout enfant, avec un cœur d'enfant, le cœur de la foi, il a marché sur les eaux sans problème. Jusqu'au jour, c'est-à-dire, il avait le regard fixé sur Jésus. Quand vous avez le regard fixé sur Dieu, vous pouvez avoir de la foi. Mais quand vous avez des regards fixés sur les montagnes vous intimident. C'est comme si on te montre 2 choses. On te montre un digba qui dit qu'il est là pour te protéger, un digba qui est là pour te tuer. Ta capacité à être détendue dépend de quel des deux tu prends pour le plus fort. Si tu as l'impression que le digba qui dit qu'il te protège là, il a l'air trop gringalin. Hein. Si l'autre là, le chat, je ne peux pas tenir. Même s'il dit rassure-toi, et que tout le monde t'a dit qu'il est le plus fort, tu oublies qu'il peut être un grand maître de kung-fu, être là, gringalin comme ça, et te terrasser un gros digba. Mais si tu n'es pas capable d'avoir la confiance qu'il faut en lui, il va être là, à côté de toi, peut-être te tenant la main. Tu es en train de trembler, de faire pipi dans ta culotte parce que quelqu'un d'autre est en train de te menacer. Si tu regardes ce petit-là, qui n'a l'air de rien, mais on t'a parlé de lui, tu sais que c'est un Saint-Inois de Kung-Fu. Il a tué des gens 1000 fois plus gros que l'autre, ainsi de suite, tout ça. Tu es serein. Quoi qu'il se passe, tu ne trembles pas. Tu peux même larguer l'autre. Mais si au lieu de te concentrer sur le pouvoir, apparent ou non, sur les exploits, sur le CV, sur la réputation réelle de celui qui te protège, tu commences à prendre le temps d'admirer les forces, les muscles, la hauteur, la taille, les mouvements de l'autre, tu vas commencer à avoir peur. Là où tu concentres ton regard détermine ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ton comportement. Et ton comportement détermine ce que tu auras. Car il t'en sera toujours fait selon ta foi. La parole de Dieu est claire. Et j'en fais l'expérience tous les jours. Ce que tu crains t'arrivera. Ce que tu redoutes t'atteindra. Mais ce que tu crois, tu l'obtiendras. En fait, si vous avez fait un peu de mathématiques, c'est la même chose, hein. La peur, c'est quoi? La peur, c'est la foi que la probabilité du problème est plus grande que la probabilité de la solution. La confiance, c'est l'assurance, si vous voulez, que la probabilité de la victoire de la solution est plus grande que la probabilité de la victoire du problème. Donc, celui qui a peur, c'est quelqu'un qui a foi, mais foi dans la capacité de nuisance et de blocage de Satan. Et celui qui n'a pas peur, celui qui suit et qui dit « Ne vous inquiétez de rien, j'ai vaincu le monde. N'ayez peur de rien. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Vous combattez dans la victoire, pas pour la victoire. 1000 comme à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Vous êtes la tête et non la queue. Et vous combattons, mais ils ne vous vaincront pas. Ces attaques, moi, je mets seront parfaites. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout est éphémère, sauf la gloire de Dieu. N'ayez pas peur, fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi. Ma houlette et mon bâton te protègent. Même dans la vallée de la mort, on peut parler pendant des heures de ce que Dieu a dit pour ne pas avoir peur. Mais, comme vous le voyez là, il ne fait pas du bruit. C'est le lion de la tribu de Juda qui prend l'apparence d'un agneau. Et vous êtes dans la jungle, un agneau tout blanc, tout beau vous dit, moi je suis l'agneau de Dieu. Et un lion rugissant vient. Et l'agneau vous dit, n'aie pas peur, moi je suis l'agneau qui te protège. Vous regardez le lion avec ses dents, vous dites, qui est cet agneau-là qui vous dit de ne pas avoir peur du lion? C'est ça le vrai problème. Et donc, avoir peur dans ce cas, c'est quoi? C'est croire que le lion rugissant est plus fort que l'agneau. Et avoir la confiance, avoir la foi, c'est croire que l'agneau, malgré les apparences, est plus fort que le lion rugissant. Hélas, la plupart des gens sont des Thomas. Ils ne croient que ce qu'ils ont vu. Ils ont besoin de voir de leurs yeux l'agneau terrasser le lion pour croire. C'est pour ça que Jésus dit que seront heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il a dit, Thomas, tu n'as pas de mérite. Tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. S'il faut d'abord qu'un féticheur te fasse une démonstration mathématique pour te démontrer qu'il peut tuer à distance avant que tu ne crois, tu risques de mourir plusieurs fois. Heureux ceux qui croient ça sans avoir vu pour prendre leur disposition. Un féticheur les menace. Si tu ne sais pas que par là, simplement parce qu'on te l'a expliqué, qu'il faut bien travailler pour ne pas rater son examen, que tu dois t'amuser pendant toute l'année en terminale et échouer ton bac, avant de savoir que la discipline en terminale détermine le résultat, malheur à toi qui ne va croire que la pagaille donne de l'échec après l'avoir vu. Dans tous les domaines de la vie, votre capacité à comprendre, à concevoir les choses, à les intégrer de manière conceptuelle avant que ça devienne visible, fait toujours la force. Si vous n'êtes capable que de croire ce qui est devenu flagrant, ce que tout le monde voit, vous n'avez aucun mérite. Et à un moment, je me demandais, mais pourquoi est-ce que Dieu prend tant de soin que ça à paraître faible? Regardez dans toute l'histoire, Dieu prend l'apparence de grande faiblesse. Agneau, le coupable sur la croix, les anges, c'est des gens apparemment inoffensifs. C'est-à-dire, regardez bien, Dieu prend beaucoup de soin à apparaître à l'homme beaucoup moins fort qu'il ne l'est. Il nous dit qu'il est fort, mais il fait tout pour paraître faible, en nous disant de croire qu'il est fort. Regardez bien, c'est exactement comme ça que ça se passe. Parce qu'on peut dire, mais si Dieu nous faisait une démonstration claire de sa puissance, on va croire. Pourquoi lui aussi ne le fait pas? On peut dire ça, non? Pourquoi il ne le fait pas? Qu'est-ce que les gens disent à la croix, Jésus? Tout ce que tu dis là, c'est bien beau. Si tu es le Fils de Dieu, là, descends de là, on va voir. Évidemment, Jésus pouvait descendre. Il pouvait même faire plus que descendre. Comme il a dit, il suffisait qu'il claque des doigts pour que des légions d'anges viennent à son secours. Mais la victoire de Jésus à la croix était beaucoup plus grande que de descendre d'une croix. Ironie du sort, comme Dieu aime bien le faire, c'est le fait d'être capable de rester à la croix jusqu'à avoir vaincu Satan par sa mort, qui est le grand sacrifice, était une victoire spirituellement et globalement 1000 fois plus puissante que la victoire de descendre de la croix. Je donne un exemple. Pourquoi vous comprenez ça? Parce que quand vous ne comprenez pas les choses en terre à terre, ça paraît de la théorie. Quand tu as un enfant, un garçon ou une fille, qui est adolescent, l'âge où avec la puberté deviennent rebelles et consorts. Un père a toujours la possibilité de se fâcher, de chasser l'enfant de la maison, ou de baffer sa fille, ou de baffer son garçon, ou même de le faire enfermer. En termes de pouvoir ou de puissance immédiate, c'est une démonstration un peu plus claire que le dernier mot revient au papa. Si tu es un fils, tu déconnes, papa peut te faire enfermer. Je connais des pères qui ont fait mettre leurs enfants en prison simplement pour leur rappeler qu'ils étaient les plus forts. J'ai des gens dit, mais enfin, moi, ce petit, il a fait le coffret, il comprendra, ça va le discipliner. Ça, c'est la victoire Chanel. Montre que tu es fort. Mais la vraie victoire d'un parent, c'est d'arriver à gérer avec sagesse, patience, un peu de sanction, un peu de parler, un peu de prière, un peu d'intercession. Et qu'on sort, d'arriver à gérer un enfant qui traverse cette phase-là, qui ne devient pas un bandit ou une fille qui a attrapé une grossesse et qui devienne quelqu'un demain qui sera très très grand, que tout le monde va apprécier, qui lui viendra dire à ses parents, Heureusement qu'on m'avait éduqué. Cela suppose parfois que des parents ont accepté des insultes de leurs enfants, se sont fait mépriser par leurs enfants. Il y a des enfants qui ont volé des millions à leur papa. Il y a des enfants qui ont quasiment giflé leurs parents, ainsi de suite. Est-ce que le parent qui ne réagit pas en utilisant la force réelle qu'il a pour discipliner l'enfant, est-ce qu'il est faible ou est-ce que c'est lui qui est le plus fort, le plus sage, le plus puissant d'arriver malgré tout ça à rester un père ou une mère d'amour qui finit quand même par faire en sorte que cet enfant-là devienne quelque chose? Quel est le plus grand mérite en termes de puissance de parent? Vous convenez avec moi que c'est celui qui peut gérer ça. La solution de descendre de la croix est la solution de facilité. Descendre de la croix, c'est-à-dire tu es là, tu dois donner ta vie pour sauver tes enfants. Tu dis que non, 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 toi tu es très fort, tu tues tous les gens qui voulaient prendre ta vie pour sauver ton enfant. C'est un peu comme si on t'amène à l'hôpital. On dit que ton enfant a des problèmes de cœur. On doit faire une opération, te prendre ton cœur pour le donner à ton enfant. Parce que toi tu as déjà 10 ans, l'enfant a 2 ans. Il vaut mieux comprendre ton corps pour sauver une nouvelle vie. Et pour montrer que tu es fort, tu tues tous les médecins qui voulaient faire l'opération pour prendre ton cœur afin de les empêcher de le cœur à ton enfant. Est-ce que c'est un signe de puissance? C'est un signe de puissance. Le problème, c'est que les humains que nous sommes impressionnés par les démonstrations viriles et stupides de puissance, au détriment de la réelle puissance, du réel pouvoir. La vérité sur la puissance est différente de la réalité sur la puissance. Ce n'est pas les gens qui font du bruit, ce n'est pas les gens qui écrasent tout le monde, ce n'est pas les gens qui paraissent les plus forts qui sont les plus puissants. Vous allez voir des gens, des hommes qui font beaucoup de bruit. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, je ne citerai pas de nom. On a vu il n'y a pas longtemps un grand président, tout le monde criait son nom. On sait très bien que lui n'avait aucun pouvoir, il ne gérait rien, c'est sa femme qui gérait tout. Donc celui qui semble fort pour les hommes n'est pas toujours le plus fort. Mais il y a des gens qui semblent très faibles pour les hommes et qui sont les plus forts. Dieu, dans sa stratégie, dans son humilité qu'il veut que nous imitions, ne se fatigue pas à vous donner l'impression visible en termes de réalité qu'il est fort. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Quand tu sais que, je vous donne un exemple. Un pauvre, vous lui dites de s'habiller d'une certaine manière pour aller à certains endroits, mais quelqu'un qui ne se sent pas important, quand vous lui dites de porter certaines choses pour aller à certains endroits, il dit non, de peur qu'on ne le prenne pas au sérieux. Ou bien, mais plus quelqu'un est puissant, il a même tendance à sortir en culotte, en tapette. On dit, mais pourquoi t'as vu comme ça? Non, je n'ai pas envie de me stresser. Pourquoi? Quand vous êtes vraiment fort, vous n'avez plus aucune inquiétude d'être pris pour n'étant pas fort. Parce qu'à la limite, c'est pas que je suis milliardaire et tout le monde pense que je suis pauvre parce que je suis mal habillé. Qu'est-ce que ça m'enlève? Ça m'enlève quelque chose? Vous allez voir que les grands n'ont l'air de rien. Ils ne se fatiguent même pas. Ils ne sont pas tout le temps en train d'attacher des costumes, des cravates, d'être cirés. C'est les gens qui veulent camoufler la réalité de qui ils sont, qui prennent beaucoup de soin à ça. Ceux qui sentent que naturellement ils ont de la valeur s'en foutent de comment vous les voyez. Tout ça ne change rien à qui ils sont. Donc Dieu n'a pas besoin de relever le défi de descendre de la croix pour prouver qu'il est fort. Il n'y a même pas de débat sur sa force. Je ne sais pas si vous me suivez. Si je suis riche et je vois mon oncle qui dit « Regardez-moi ce pauvre-là », ça m'énerve. Je vais commencer à discuter avec lui pour lui démontrer comment je suis plus riche que lui. Si je ne suis pas un fou moi-même. Si vous voyez un fou, tout le monde voit qu'il est fou, la nuit il vient dire « Oh, regardez ce fou-là ». Vous allez commencer à discuter avec lui pour lui démontrer que vous n'êtes pas fou. Lui demander de venir, vous allez faire des pauvres pour voir qui est fou, qui n'est pas fou. Cela voudrait dire que vous êtes fou vous-même. Ou bien, pourquoi vous voulez que Dieu, qui est omnipotent, c'est-à-dire la puissance incarnée, se fatigue à s'assurer qu'on ne le prenne pas pour faible? Ça, c'est un souci des faibles. Le fort n'a pas le souci de paraître faible. Il sait que quand ça lui plaira, ses actions vous prouveront qui est le plus fort. Le fort se concentre sur ses objectifs. Et pour ses objectifs, il n'a pas besoin de faire du faux bruit. Le problème aussi, c'est quoi? Dieu regarde nos cœurs plus que nos actions, contrairement à ce que les gens pensent. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu regarde au cœur et nos apparences. Et beaucoup de gens qui ont l'air d'être de grands hommes de Dieu, ou l'inverse, des gens qui ont l'air d'être pas des grands hommes de Dieu, sont en réalité dans la perception de Dieu, tout le contraire de ce que vous pensez. L'une de mes prières que je fais maintenant à Dieu et que je vous conseille de faire aussi, c'est de demander à Dieu de vous permettre de voir les choses comme il les voit, de percevoir les choses sous l'angle où il les perçoit. On appelle ça de l'empathie. Quand vous pouvez vous mettre à la place de quelqu'un pour percevoir les choses comme il les perçoit, vous comprenez beaucoup de choses et vous comprenez immédiatement sa logique. Il y a des gens qui n'ont l'air de rien, que tout le monde méprise, mais Dieu voit leur cœur et leur cœur lui plaît beaucoup plus que le cœur de d'autres personnes que le monde entier prend pour des géants de la foi, mais qui ont un cœur noir. Il y a plein de gens qui font des bruits, des miracles, du temple, du tapage pour Dieu, mais avec une seule motivation, être applaudi. Ça, c'est un cœur d'orgueil qui est noir pour Dieu. Le cœur d'un petit mendiant, d'un petit pauvre qui aime Dieu, qui n'a rien reçu de la vie, mais qui, dans sa souffrance de tous les jours, est fidèle, dit « Moi, jusqu'à la mort, même si je n'ai rien, je continue de dire que Dieu est grand, est beaucoup plus glorieux, il est beaucoup plus impressionnant pour Dieu que le cœur d'un milliardaire qui circule dans des jets privés. Je ne dis pas que c'est mauvais de réussir, mais avec finalement dans son cœur, pour motivation, non pas d'être en train de servir Jésus, mais d'être en train d'être applaudi comme un grand serviteur de Jésus. Et croyez-moi, le diable est très fort. C'est l'un des premiers pièges qu'il tend souvent aux gens qui s'élèvent dans la foi. Le piège de l'orgueil. Le piège d'avoir un cœur qui n'est plus un cœur à Dieu. On commence avec un cœur à Dieu. Mais quand on ne reste pas connecté à Dieu, on grandit avec un cœur d'orgueil. On se prend pour qui on n'est pas. On croit qu'on est puissant. On a quelques dons. On peut guérir quelques personnes. On a de l'onction. On finit par se prendre pour qui on n'est pas. Et dès qu'on se prend pour qui on n'est pas, on essaie de voler à Dieu sa gloire. On a donc un cœur d'orgueil que Dieu déteste. Et l'une des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que tel que les hommes fonctionnent, les hommes sont impressionnés par les signes visibles de puissance. Les hommes choisissent qui a de la valeur par rapport à ce qu'on voit. Or, Dieu choisit qui a de la valeur par rapport au cœur. Et c'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, les choix de Dieu sont toujours incohérents par rapport à la logique humaine. Pourquoi Joseph, le dernier, le petit, pour diriger l'Égypte, quand tous ses grands frères sont là, avec, regardez, tout ce que Dieu dit, que tout ce qu'il y a comme prophétie, quand même glorieux, les Judas construits, c'est tout ce... Pourquoi Joseph? Vous prenez David, regardez, même le prophète Samuel, un homme de Dieu, il est venu, il s'est lui-même trompé, il a pensé à tout le monde sauf à David. Le propre père de David, il a mis David hors jeu. Regardez Salomon, on oublie que Salomon est l'enfant de Bathsheba. Vous oubliez ça? Salomon, c'est l'enfant de la femme avec laquelle David a commis le plus odieux des péchés. Si c'était les hommes, est-ce que c'est un enfant obtenu avec la femme qui a poussé David au plus grand péché que Dieu doit donner l'héritage du trône de David et faire de ce Salomon-là donc un ancêtre de Jésus? Donc Jésus a Bathsheba comme ascendant. Si c'était les hommes, qui veut avoir ça dans sa lignée? Si c'était les hommes, est-ce que le fils de Dieu naît dans une étable avec une petite servante de Palestine, avec un menuisier, pendant qu'il y a le palais, pendant qu'il y a le temple, pendant qu'il y a plein de choses? C'est là-bas que même un petit roi voudrait que son enfant naisse. Regardez les Jacob, le plus faux des frères, c'est lui que Dieu décide d'élever. Regardez à toutes les étapes de la Bible, c'est la même constante. Les choix de Dieu surprennent toujours l'homme, parce que l'homme regarde des apparences qui sont toujours maquillées. Dieu regarde le cœur et voit ce que nous ne voyons pas. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne cherche pas à paraître fort, c'est que Dieu qui nous connaît parfaitement sait que nous sommes tous des utilitaristes, c'est-à-dire des égoïstes, des opportunistes. Voilà le mot que je cherchais. Nous allons systématiquement toujours nous mettre dans le camp de celui qui nous semble être le prochain gagnant. Quand il y a une élection présidentielle en vue, les hommes politiques font des discours. Bon, il y a deux ou trois qui sont les favoris. Eux, ils se battent vraiment. Tout le reste là, c'est des hypocrites. Ils ne font qu'un seul calcul. Qui a des chances de gagner? Ils s'alignent derrière celui-là. Ils prétendent vouloir faire élire la personne. Mais en fait, ils ne se fatiguent à essayer de faire lire que celui qui sont sûrs qu'il va gagner. Regardez bien, les hommes que nous sommes, ne voulons nous aligner qu'avec le favori, avec celui qui est puissant. Aucun d'entre vous qui n'a le choix ne choisit de s'allier avec celui qui semble être le plus faible des choix qu'il a. N'est-ce pas? Donc, même quand nous nous marions, même quand nous faisons certains choix, nous donnons l'impression d'être gentils. Mais dans le fond, nous faisons toujours le choix qu'on appelle de la raison, qui est le choix de nos intérêts. Nous nous allions là où nos intérêts semblent les plus gros. Ça fait que notre alliance, parfois, est sincère. Mais dans beaucoup de cas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les mariages, n'est pas sincère, n'est pas l'alliance d'un cœur qui veut, mais c'est l'alliance d'un cœur qui fait semblant de vouloir parce qu'il a senti qu'il a quelque chose à gagner là. Vous me suivez? Or, Dieu dit que c'est le cœur qui compte pour lui. Parce qu'au ciel, Dieu vit avec nos cœurs, nos chairs hypocrites, calomnieuses, cachotteries, là, tout ça n'existe pas là-bas. Non. C'est comme si au ciel, Dieu n'a rendez-vous qu'avec vos cœurs. Non. Si Dieu se permet de mal faire la sélection des gens sur la terre et que plein de gens ayant des cœurs noirs, étant mu par le pouvoir, par l'argent, par l'orgueil, par la célébrité, mais avec des apparences de grands hommes de Dieu, de personnes très saintes, sont majoritairement sélectionnés pour le ciel, ils vont aller lui faire un coup d'état là-bas comme Satan, parce qu'ils ne l'aiment pas du tout, ils s'en foutent royalement de lui, ils ne le connaissent pas, ils se moquent éperdument de qui il est, de ce qu'il aime, de ce qu'il veut. Ils n'ont fait tout ça que pour être célèbres et pour être applaudis et pour essayer de conquérir le paradis s'il existait. C'est donc des hypocrites, des infiltrés, des mercenaires, des méchants aux apparences d'agneaux qui font semblant d'aimer Dieu qui utilise son nom pour atteindre leurs objectifs. Quoi de mieux pour fabriquer une rébellion au ciel si ces gens-là allaient là-bas? Donc, Dieu sait que si comme les hommes, il fait étalage n'importe comment de toute sa puissance, vous croyez que même les satanistes, les féticheurs, les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens, tous ceux qui nient Jésus là, si Jésus venait faire des démonstrations terre à terre là, qui montrent que vraiment c'est le plus fort, qui est con, même s'ils sont méchants, ils vont le suivre? Ou bien, ils vont le suivre? Mais quel intérêt pour Jésus que des gens qui ont un cœur comme ça le suivent simplement parce qu'il a fait démonstration de puissance? Pour remplir le ciel de serpents? Après en avoir précipité Satan, Dieu veut faire du ciel un havre de paix, pas un repère de vipères. Or, s'il laisse la sélection se faire sur les apparences, les vipères, les serpents sont très très forts pour passer pour des colombes. Mais aucune vipère ne joue le gentil quand il ne sent pas qu'il a un intérêt. Aucune vipère n'ira souffrir pour prendre un chemin douloureux. Il faut vraiment aimer celui qui est au bout de ce chemin-là pour le prendre. Le royaume des cieux est une porte étroite. Seuls les violents s'en empareront. L'enfer a pour chemin un boulevard. C'est la méthode que Dieu a choisie pour s'assurer que celui qui ne l'aime pas vraiment, qui ne le cherche pas vraiment, qui ne fait pas ça pour lui, ne va jamais pouvoir prendre le chemin qui mène au paradis. Je ne sais pas si vous me suivez. Cela étant, la seule chose ou l'une des principales choses que Dieu juge en vous, c'est votre foi. C'est quoi la foi? Un, croire que Dieu existe sans l'avoir vu. C'est ça le premier défi. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de Dieu sans croire que Dieu existe. Oui, ils se disent, bon, c'est quelque chose. Bon, peut-être, on ne sait jamais, on verra. Et il y a des gens qui considèrent que Dieu n'existe pas. D'accord? Il faut que je vous explique pourquoi ça peut être énervant. Je ne sais pas, aide-moi à leur expliquer ça. C'est comme si vous êtes en voyage, peut-être en Alaska ou dans un pays très lointain. Avant de partir, vous avez laissé une femme avec un enfant qui était tout bébé. Peut-être qu'il était même dans le ventre de sa maman. Donc, depuis qu'il est né, il ne vous a jamais vu. Mais tous les mois, vous lui envoyez des mignons, il n'a jamais manqué de rien. Il vous parle au téléphone, vous lui envoyez des courriers. Chaque fois qu'il a un problème, il vous appelle, vous lui envoyez l'argent. C'est-à-dire, il ne peut pas dire qu'il ne sent pas les effets de l'existence de son père dans sa vie. Les gens lui en parlent. Sa mère dit, moi, je l'ai vu. Mais imaginez que cet enfant n'a pas fait, lui n'a jamais vu son père. Quand ses amis lui disent à l'école, tu es sûr que ton père là existe? Tu es sûr que ce n'est pas quelqu'un, un ami de ta mère qui est là-bas qui te baratine parce que tu n'as pas de vrai père et puis elle veut te consoler pour que tu n'aies pas tout? Tu es sûr qu'un jour ton père là va revenir, tu serais mieux d'oublier ce père là, toi tu n'as pas de père. Et confronté à ces moqueries de ses camarades, confronté au fait que tout le monde voit son père, les gens, certains voient leur père venir les chercher à l'école, ils ne voient jamais son père, ainsi de suite. Votre enfant commence à dire, je crois effectivement que les gens ont raison. En fait, on a un père qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, moi je n'ai pas de père. Et vous le voyez, c'est moi quoi que vous n'avez pas de père. Vous dites, mais tous les millions que je vois chaque mois là qui envoie. Bon, ma mère peut avoir n'importe quel ami, mais c'est peut-être ma maman qui envoie l'argent et tout, c'est toi. Vous dites, mais je t'ai fait ci, je t'ai appelé, j'ai fait ci, tu étais malade. Il dit, non, non, non. Si tu es vraiment mon père, viens que je te vois. Il dit, mais je suis en Alaska. Je suis en mission là-bas, bien peut-être, je suis dans un projet américain, sur une base secrète, je ne peux pas sortir avant 30 ans, sinon ils vont me tuer. Non, si tu es vraiment mon père, viens, je vais te voir. Sinon, moi, je refuse de croire que j'ai un père. C'est pour toi, viens me voir si tu es vraiment mon père. Et vous voyez que votre enfant, bon, quand il a besoin de vous, comme dans tous les cas, il n'a pas d'autre solution, il vous téléphone, vous envoyez l'argent, il dit merci. Mais vous voyez bien que dans son cœur, il ne considère pas qu'il a un papa, qu'il aime, tout ça. Après, vous essayez d'imaginer un peu le scénario. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qui prouve que vous êtes son père et dont il jouit tous les jours, même s'il dit, bon, oui, il y a un monsieur qui dit qu'il est mon papa. Et bien, vous dites, oui, il y a un monsieur qui dit qu'il est mon papa. On me dit de l'appeler tous les matins, de l'appeler tous les soirs. Je lui dis merci pour moi, mais je lui dis merci, mais papa, imaginez papa, moi je n'ai pas de père. Il veut se marier, on dit, mais présente-moi ton père. Il dit à sa fiancée, moi je n'ai pas de père. Et on vous fait écouter la vente. Il veut signer un contrat de travail, mais tu as demandé conseil à ton père, moi je n'ai pas de père. Quel père on a, on ne voit jamais. Si j'avais un père, il serait là. Et dans tous les domaines de sa vie, il vit comme s'il n'a pas de père, il dit à tout le monde que lui n'a pas de père. Comment vous allez vous sentir? Il ne vous appelle jamais pour votre anniversaire, il ne vous appelle jamais pour ce que vous voulez pour vous aimer. Il ne vous appelle que quand il a un besoin. Et chaque fois, vous vous envoyez quand même. Mais il continue de dire qu'il ne croit pas qu'il a un père. Que ça peut être du hasard, ça peut être du montage, je ne sais pas quelle explication. C'est exactement ce que nous faisons. Parce que Dieu est confiné au ciel. Tenu par sa parole, il ne peut pas venir sur la terre. En dépit de tout ce qu'il démontre tous les jours depuis des millénaires que Dieu est là, qu'il pourvoit, qu'il est fidèle. Vous acceptez tous les signes, tous les fruits de son existence et vous doutez de son existence. Est-ce qu'on peut insulter quelqu'un plus que ça? On peut manquer plus de respect à son père que d'en venir à douter de son existence. Et vous allez même jusqu'à chercher des gens que vous adoptez comme papa, vous voulez qu'il soit votre papa adoptif, pour avoir quelqu'un pour vous conseiller. Et son père après dit, mais je suis là, comment tu vas prendre un papa adoptif? Quel papa est là? Si tu étais là, il faut venir. Moi, j'ai choisi de prendre ce féticheur-là, il est mon papa adoptif. J'ai choisi de prendre ce franc-maçon-là, c'est mon papa adoptif. J'ai choisi de prendre ce Bouddha-là, ou cet ésotérique-là, c'est mon papa adoptif. Et vous commencez à devenir, c'est eux qui vous conseillent, c'est eux qui vous influencent. Quand vous voulez prendre un nouveau contrat, c'est eux que vous consultez. Vous voulez vous marier, c'est eux que vous consultez. Quand il y a besoin d'argent, bon là, vous les oubliez tous parce qu'ils ne vous donneront pas. Vous appelez là-bas, ils envoient l'argent. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser le problème. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez tous les jours des choses, la vie, la santé, la respiration. Je ne peux même pas finir de citer. Une série de choses qui ne peuvent venir que de lui, et vous le savez. Quand vous en avez besoin, vous savez demander. Et vous savez que personne ne peut le demander, ne peut vous le donner. Aucun des autres, là, vous le savez bien, ne peut se fâcher pour le donner. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas qu'il existe. Vous l'invoquez, vous répondez toujours. Mais vous, vous avez décidé de croire parce que vous ne pouvez pas le voir, que vous n'êtes pas de papa. Et vous voulez lui être agréable comment? Vous voulez qu'il fasse du zèle comment? Il va faire des choses parce que, bon, c'est un père, il va faire le strict minimum en tant que père. Mais il ne peut pas avoir la joie qu'il faut pour vous bénir, pour vous combler de choses, pour vous laisser des véritables consoles, alors que vous dites à tout le monde que vous n'êtes pas de papa. Et que vous allez prendre plein de papas adoptifs, que vous ne vous levez jamais pour penser à votre papa en se disant, j'ai un papa, je vais l'écouter. La foi commence par le fait de croire. Ça a l'air bête, mais peu de gens croient. Croire que Dieu existe. Deux, croire que Dieu est vivant. Beaucoup de gens croient que Dieu existe, mais soit qu'il est mort, soit qu'il est sourd, soit qu'il est muet, soit alors qu'il est le Dieu des morts. Qu'est-ce que j'appelle croire que Dieu est mort? Mais par exemple, il y a des églises dans lesquelles On dit, bon, quand vous allez mourir, vous allez voir Dieu. Vous n'avez pas de rapport avec Dieu au quotidien. On parle de Dieu au passé, au futur. C'est pour ça des questions dans le genre des hommes de foi à notre période. Parce que vous croyez qu'à notre période, Dieu est mort, bien il est en retraite, ou bien il est en congé, ou bien il est en train de dormir. La Bible est claire, Dieu est clair. Dieu ne dort ni ne sommeille. S'il sommeille 2 minutes, vous serez déjà mort. Quand Dieu sommeille 2 minutes, si c'est arrivé, vous verriez ce qui se passe sur la terre. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Jour et nuit, quand vous dormez, votre cœur bat 70 fois par minute. Depuis que vous êtes né, faites le calcul. Ça n'a jamais raté une seule fois. Ça rate une seule fois, vous tombez. On va commencer à courir. On se couche, tout va bien, on se réveille le matin, on est complètement gonflé, on ne peut plus bouger. Ça, c'est pas que Dieu dort, c'est qu'il a décidé, bon, laissez-le voir. Il a fallu combien de minutes pour que Job passe de milliardaire à personne complètement foutue? Regarde dans le pays, il faut combien de temps pour que des milliardaires, des gars puissants deviennent rien? Tu n'es pas mort, il est bien vivant. Il est partout, il sait tout, il peut tout, il parle et il entend quand on lui parle, il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Je vois des églises où quand quelqu'un dit qu'il a entendu Dieu, comment c'est possible? C'est des bêtises. On va demander au Vatican de confirmer qu'il a pu entendre Dieu. Il ne faut pas se moquer des gens. Si Dieu ne peut pas parler, pourquoi on lui parle? Si vous parlez à quelqu'un tous les jours et ne vous répond jamais, où vous êtes, où lui il est fou? Imaginez, je le prends. Tous les matins, je lui parle. Tous les midis, je lui parle. Il y a des gens qui parlent à Dieu 5 fois par jour. Dieu ne leur répond jamais depuis qu'ils sont nés, continuent de parler. Ils sont fous. Pour parler toute leur vie à quelqu'un qui ne répond jamais. Essayez d'imaginer ça. C'est normal de parler 5 fois par jour à quelqu'un qui ne répond jamais. À moins d'être fou soi-même. C'est normal. Et je continue de parler. Quand même. S'il est fou ou s'il est sourd, il faut le laisser tranquille et arrêter de compter sur lui. Je ne peux pas parler 5 fois à quelqu'un par jour en trouvant normal qu'il ne parle jamais. Écoutez, quand vous allez rencontrer quelqu'un, rendez-vous d'affaires, vous rencontrez un président, vous rencontrez un roi, vous rencontrez un bailleur de fonds, vous rencontrez n'importe qui d'important. Ce qui détermine que vous dites que votre rendez-vous est un succès, c'est quoi? C'est parce que vous lui dites. C'est ce que lui répond. Quand tu vas voir un chef, tu parles, on ne parle pas beaucoup. Et même Dieu nous dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de parler beaucoup. Avant que vous n'ouvriez la bouche, Dieu qui sait tout, sait de quoi vous avez besoin. Donc, tu ne peux pas aller voir par exemple le président de la République et parler pendant 1 heure de temps de tes problèmes. Tu finis de lui parler de tes problèmes, tu te lèves, tu t'en vas. Tu es parti faire quoi? C'est ce qu'il dit. S'il dit, bon, intendant, venez, occupez-vous de lui. 2, ça suffira. 10 seulement 2 mots, je serai guéri. C'est ça un chef. Je vous ai entendu 5 sur 5. Monsieur le ministre de la Défense, mettez-lui 3 garde-corps. Il a fini. Quand on parle à un chef, on parle beaucoup de vous là. C'est les 2 mots qui disent, qui sont ceux qu'on a gagnés. On ne gagne rien à parler à un chef. En général, quand tu vas parler à un chef, si c'est un bon chef, il a même le circuit de renseignement. Il sait ce que tu viendras dire avant que tu ne viennes. Il sait la vérité. Un chef d'État qui se respecte, quand il reçoit quelqu'un en audience, son service de renseignement doit lui avoir fait une fiche sur la personne. Il doit savoir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et parfois, on lui recommande même qu'est-ce qu'il doit vous répondre. Donc, ce qu'on gagne à aller parler à un roi, à plus forte raison à Dieu, ce n'est pas nos bavardages inutiles, stériles. C'est ce que lui répond. On dit, dis seulement moi je serai guéri. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Dis seulement moi je serai guéri. Et on dit que quand il parle, c'est normal. C'est pas normal. Il faut demander au Vatican de confirmer qu'il a parlé. Il ne faut pas se foutre des gens. Dis seulement un mot. Et on dit qu'il ne peut pas parler. Et on lui parle tous les jours. On prend la même chose. On lui dit ça 10 fois x10 pendant toute une nuit. Si je viens te voir, dis mon frère, ça va? Tu es gentil. Tu es béni. Tu es gentil. Tu es béni. Tu es gentil. Tu es béni. Tu vas dire, petit. Si tu veux dire quelque chose, il faut aller à l'essentiel, qu'on passe à autre chose. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de gens à gérer sur la terre. Vous pouvez faire 50 000 neuvaines. Vous tapez sur les nerfs à Dieu. Il n'est pas sourd. Il n'est pas idiot. Il n'est pas timbré. On n'a pas besoin de dire la même chose 1000 fois pour qu'il comprenne. Pourquoi vous voulez saouler Dieu? Ou est-ce que la parole de Dieu que nous utilisons tous nous dit qu'il faut saouler Dieu? Regardez, ça doit être dans Matthieu 7, je crois, Matthieu 6. Quand les gens ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, parce qu'ils ont dit, mais nous avons vu plein de prophètes avant toi. Les Jean-Baptiste, les Moïse, les Abraham, ils avaient une manière de prier. Mais aucun d'entre eux n'avait la puissance que tu avais. Quand toi tu pries, tu sors, tu as la puissance, tu fais des miracles, tu réveilles des morts, tu guéris des gens. Apprends-moi à prier comme toi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'est là où il a dit, 1, avant que vous ouvriez la bouche, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Parce qu'il sait tout. Non, il ne peut pas ne pas savoir ce dont vous avez besoin. 2, ne vous imaginez pas, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'à force de répéter comme les païens les mêmes paroles, vous serez exaucés. David, il faut me retrouver ça dans Matthieu 6 ou Matthieu 7. Je crois que ça doit être Matthieu 6, effectivement. Ne vous imaginez pas que, à force de répéter comme les païens, je vous salue Marie 10 fois, c'est des pratiques païennes de la Rome. C'est comme le chapelet musulman, c'est comme le chapelet de Corée. C'est la même pratique païenne. Avant de donner notre Père, Jésus, comme s'il voyait l'avenir, mais il le voit. Quand on a dit comment prier là, il dit, je vais vous dire, mais attention, ne répétez pas. Églo, répétez rien qu'un amblot. C'est après avoir dit ça, il dit, voilà comment prier. Quand même, français, c'est français. Comment? Comment induit quoi? Excusez-moi, moi je suis mathématicien. Ça induit la méthode. Comment n'induit pas des mots? Voilà comment prier. Il n'a pas dit voilà quoi prier. Il a dit voilà comment prier. Quand on dit comment, ça induit la méthode, c'est-à-dire le processus, la manière. Le Notre Père est un plan de discussion avec Dieu. Notre Père, D'abord parce qu'avec Jésus, il y a une nouveauté. Dieu n'est plus le Seigneur, n'est plus Elohim, n'est plus Jéhovah, n'est plus le Dieu qui est loin là-bas, qui est sévère, qui pourvoit. C'est Dieu qui est devenu notre Père par Jésus. Je peux dire Abba Père, c'est Papa. Jésus a transformé Dieu, le Seigneur, le Maître, le Roi, terrible, en Papa pour chaque chrétien. Cela fait que nous pouvons dire Père, au lieu de dire Jéhovah ci, Jéhovah ça. Bref, prenez le temps de méditer sur le simple mot Père. Vous allez voir tout ce que ça contient comme révélation sur la nature de notre relation avec notre. Ce n'est pas votre Père à vous seul. Vous n'avez pas dit prier mon Père. Notre. Si c'est notre Père, nous sommes des frères. Si nous sommes des frères, nous ne pouvons pas ne pas nous aimer en disant que nous aimons notre Père. Dans toute famille, la première recommandation, la dernière recommandation de tout père pendant qu'il vit avant de mourir, c'est rester uni. Il n'y a rien qui rend plus malheureux un père que de voir ses enfants ne pas s'aimer, s'auto-détruire. Ou bien, il y a même des choses qu'un père peut vouloir faire pour ses enfants, mais quand il les voit en train de se battre entre eux, ça le dégoûte. Moi, j'ai plein de clients dans l'immobilier qui viennent nous voir. Vous voyez des gens, ils ont 20, 30, 40 domaines qui veulent tous vendre avec des titres fonciers. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous voulez vendre tout ça? Mes enfants ne s'entendent pas. Si je laisse, c'est bien. Quand je vais mourir, ils vont s'entre-déchirer. Ça va devenir la catastrophe. Il vaut mieux vendre et utiliser mon argent. Je n'ai pas de problème. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de parents qui ont ce problème aujourd'hui. Le vrai souci de tout père responsable, c'est l'amour entre ses enfants. C'est pour ça que Dieu dit, si vous n'avez pas d'amour, vous n'avez rien. L'amour, le premier des commandements, le fondement de tout. Dieu est amour. D'abord amour, après amour et seulement amour. Le nôtre, là déjà, si vous devez commencer à méditer ce que ça veut dire, parler à Dieu dessus, Seigneur, donne-nous de rappeler que tu es notre Père. Donne-nous de nous aimer. Donne-moi d'aimer tel frère. Vous pouvez, parce que c'est des sujets, c'est des domaines, c'est des thèmes de discussion avec Dieu. Prier, ce n'est pas réciter quelque chose. C'est venir au pied de Dieu. C'est-à-dire, comme le dit Cambé, tu peux être dans ton WC, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans ta chambre, tu peux être à ta moto, tu restes où tu veux. Parce que Dieu est en nous. La différence entre l'ancienne alliance, où le Saint-Esprit était comme une colombe, comme une nuée qui les guidait, c'est qu'avec Jésus. C'est ça qui est merveilleux. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu faire de chacun de nous son tabernacle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas là où tu vas aller et Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas la peine de chercher à aller forcément à l'église ou à la mosquée pour prier. Aller là-bas n'est pas mauvais. Mais Dieu est avec toi. Il n'a pas besoin que tu sois quelque part pour te rencontrer. Et pour parler à Dieu. Écoutez, si on dit Père là, mais comment on parle avec son Père? Il y a des gens qui disent pour prier, je dois jeûner, je dois monter à la montagne. Écoutez, comment je peux avoir un Père et avant de lui parler, je dois faire le jeûne, je dois arrêter de manger pendant 3 jours d'abord avant de pouvoir aller dire de moi à mon Père. Imaginez votre fille dit, papa, je vais te parler, mais permets que je prenne 3 jours d'abord de sacrifice pour ne pas manger, après on va parler. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, c'est-à-dire, je veux que vous réalisez les choses. Moi, je ne suis pas un pasteur. Moi, je suis un formateur, mais on va faire les choses terre à terre. Est-ce que vous allez trouver ça normal? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, vous oubliez que, même si nous ne sommes pas entièrement Dieu, la plupart de nos instincts sont les instincts de Dieu. L'amour que chacun de nous, on peut détester tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui détestent leurs enfants. Ça ne nous vient pas de nous, ce n'est pas humain. C'est une puissance divine en nous. Il n'y a rien qui rende un homme ou une femme plus heureux que d'être aimé et de se sentir aimé. Vous pouvez tout dire. Quand on cherche l'argent, c'est pour être aimé. On cherche les femmes, c'est pour être aimé. On cherche mari, c'est pour être aimé. On cherche le pouvoir, c'est pour être aimé. Regardez bien. Toute votre vie est faite pour être aimé. Vous ne courez que derrière ça. Quand on dit popularité, quand on dit célébrité, quand tout ce que les gens font là, c'est quoi? Quand on ment, c'est pour être aimé parce qu'on a peur qu'en disant la vérité, l'autre ne nous aime pas. Quand on cherche l'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour être aimé. Pourquoi on se sent méprisable quand on n'a pas d'argent? Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que les autres nous aiment. Même si vous ne le comprenez pas spirituellement, que vous ne l'appliquez pas, tout dans votre vie vous montre bien que l'amour est le cœur de tout. Dieu veut que nous le considérions comme un père. On dit pour parler à Dieu, il faut jeûner. Mais lisez dans la Bible. Les gens disent à Jésus, mais toi, tes disciples là, pendant que les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de tout le monde jeûnent, toi, on ne voit jamais tes disciples jeûner. Ils se permettent, ils mangent du maïs, ils font tout ce qu'ils veulent. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ils ont demandé ça à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, mais pourquoi voulez-vous qu'ils jeûnent pendant que le mari est là, pendant que leur ami est là? Ils jeûneront le jour où je ne suis plus là. Qui se met en deuil quand son ami est là? Jésus leur dit, pourquoi vous voulez que les gens qui sont avec moi soient tristes et jeûnent? On triste quand celui qu'on aime n'est plus là. Alors que là, il était physiquement avec eux, il n'était même pas encore en eux. Là, il est en nous. Comment pouvons-nous jeûner, en tout cas pour tout et rien, si la lumière, la vie, la solution sont en nous? Je ne dis pas de ne jamais jeûner, mais pour savoir ce qu'est le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est un moment pendant lequel, parce que Dieu aime que nous soyons sanctifiés, que nous lui obéissions. Et chaque fois que nous péchons en pensée, en parole, en action ou en omission, la Bible est claire, la parole de Dieu est claire, donc Dieu est clair, nos péchés sont comme des murs qui s'élèvent entre Dieu et nous. Si nous voulons parler à Dieu, qu'il nous entende et qu'il nous réponde, il ne faut pas qu'il y ait des murs entre Dieu et nous. Donc, toute personne qui veut parler à Dieu doit s'assurer de faire tomber le mur qu'il aurait pu ériger entre Dieu et lui. parce qu'il a péché. Pourquoi Dieu élève des murs, Dieu et nous, parce qu'il a péché? Je donne souvent l'exemple ici. C'est pas une affaire que Dieu nous aime, Dieu ne nous aime pas. Si tu as ton enfant, tu l'adores, c'est ta fille préférée ou ton fils préféré. Tu t'habilles, tu es en costume tout blanc, tu es en train d'aller à un entretien d'embauche ou un mariage ou quelque chose comme ça. Ta fille vient de manger haricots avec de l'huile rouge, elle est toute contente, elle est encore toute sale avec toutes ses mains. Tu veux sortir, elle dit papa, 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 elle vient venir t'embrasser. Tu vas d'abord la feinter. Tu dis allez la laver. Mon collègue aura mis à mon midi. C'est-à-dire, tu vas la fuir, tu vas l'éviter. Et si tu as de mauvaise humeur, tu peux même faire quelque chose qui va être une punition pour elle. Non pas parce que tu ne l'aimes pas, mais parce que la personne propre, encore que tu n'es même pas saint, alors que Dieu lui est saint, que tu es, ne peut en aucun cas être en contact avec la saleté sans te salir. Dieu est trois fois saint. Comment pourrait-il accepter d'être embrassé par des gens qui sont sales, boueux, pleins de crasse, d'huile rouge et d'huile à moteur, et qui refusent d'aller se laver alors qu'il vous a déjà dit, le sang de l'agneau est là pour vous laver. Vous voulez venir me voir? Passez à la douche, prenez le sang de l'agneau, lavez, vous repentez, vous venez. Vous laissez la douche, vous venez avec plein de saleté pour embrasser Dieu. Vous pouvez être, il peut être votre père, ça n'empêche pas de vous feinter d'abord, pour sauvegarder sa propre sainteté. Si Dieu garde le regard sur vos péchés, il va devoir vous punir. C'est une grâce pour vous que Dieu mette un mur devant vous quand vous faites des péchés. Vous allez voir que quand les enfants atteignent un certain âge, à un moment, les papas ne veulent même plus rentrer dans leur chambre. Parce que chaque fois qu'ils rentrent dans leur chambre, le désordre qu'ils voient les vénère. Donc parfois, inconsciemment, les parents préfèrent éviter d'aller voir le désordre de l'enfant pour ne pas s'énerver. Mais chaque fois qu'il va rentrer dans sa chambre, il va y avoir des disputes. Donc tu ne peux pas avoir une chambre désordonnée. Et chaque fois que tu as besoin de ton père et de ta mère, que tu sais détester les autres, les inviter dans ta chambre pour parler avec toi, il faut d'abord mettre de l'ordre dans la chambre avant de les inviter. Au moins pour les fois que tu as besoin de les voir. Donc, tant que vous ne renoncez pas au péché, tant que vous ne décidez pas d'abandonner, d'obéir à Dieu, de laisser la fornication, l'adultère, le mensonge, la jalousie, la mesquinerie, la prostitution, les choses comme la pornographie qu'on sort, vous pensez que c'est des détails. Mais Dieu ne peut pas être en contact avec vous. Vous ne pouvez pas interagir avec Dieu. Vous êtes en seul. Pas que Dieu veut votre mal, mais il veut que... Il a déjà créé la douche, allez vous laver. C'est ça le sens du baptême. Rentrez dans l'eau, laissez-y vos péchés et ressortez. Si vous refusez de passer par le baptême, si vous refusez de vous laver par le sang de l'agneau, n'en voulez pas à Dieu de ne pas accepter de se faire salir par vous. Et donc, le jeûne était un moment où, quand le peuple s'éloignait trop de Dieu, il décrétait une période où de force, on essayait de plus de discipliner, de ne pas trop manger, de ne pas trop boire, et de pouvoir recréer par la force en une période de violence sur soi-même, la communion avec Dieu. Donc, vous allez voir dans la Bible, dans Isaïe, je crois, on dit quelque part, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. 56, 58. Donc, il faut déchaîner l'opprimé, il faut partager son repas. La Bible dit, dans 56, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est partager son repas avec celui qui a faim, c'est pas ne pas manger. Et quand vous lisez toute sa description, Dieu n'a jamais dit dans le jeûne auquel il prend plaisir de faire régime. Si quelqu'un a envie de faire régime, qu'il aille faire régime ou perdre du kilo, mais il ne faut pas mettre ça sur Dieu. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un moment où on fait violence sur soi-même pour se débarrasser du péché. Il faut jeûner du péché. Il faut jeûner des mauvaises habitudes pour se reconnecter à Dieu afin que Dieu nous exauce. Partant de là, celui qui est tellement connecté à Dieu que le Saint-Esprit habite en lui, pourquoi bon Dieu devrait-il jeûner? Puisqu'il est là déjà. Jésus est là. On jeûne pour se rapprocher de Dieu. Pourquoi veulent-ils que des gens qui sont avec Dieu jeûnent? Comment la lumière, la vie peut être avec vous et vous allez être en deuil? On fait la fête quand le roi est là. Cela veut dire que celui qui devient chrétien, s'il naît de nouveau, il se débarrasse une fois pour toutes de ses péchés. On peut commettre des péchés, mais chaque fois par le repenti sincère, en demandant à Dieu de nous pardonner, nous sommes tous chaque fois blanchis. Cela nous permet d'être en communion avec Dieu et au Saint-Esprit de se manifester en nous. Maintenant, si en dépit de cela, quelqu'un baigne dans le péché, ne fait aucun effort pour affronter le péché, le Saint-Esprit qui est en lui, au début, va l'aider, va le titiller, va le convaincre de péché, va lui fatiguer la conscience pour l'aider à affronter cela. Et s'il décide de baigner dans le péché, le Saint-Esprit s'attriste et puis commence à ne plus réagir. Parce que chaque fois que vous allez dans un bordel, vous amenez Dieu dans le bordel. Si le Saint-Esprit est en vous, pour vous protéger, pour faire des miracles en vous, pour vous guérir, pour vous donner la joie, quand vous rentrez à Djonké, vous avez rentré Dieu à Djonké, vous croyez qu'il va rester en vous pour l'amener à Djonké? Vous ne réalisez pas ça? Non, excusez-moi d'être terre à terre parce que vous n'avez pas compris ce que je dis. Quand le Saint-Esprit est en vous et que vous décidez de mentir, vous faites croire à celui qui vous regarde que l'Esprit qui est en vous vous a poussé à mentir. Donc, pour parler à son Père, pas besoin de jeûner. Il peut arriver une fois de temps en temps parce qu'on sait qu'on s'est beaucoup éloigné de Dieu. Ça fait longtemps qu'on ne prie plus, on s'est complètement déconnecté de Dieu. Et on s'en ressent qu'on dit, bon, maintenant je fais violence moi-même. Je me reconnecte à Dieu. On peut faire un processus ponctuel de jeûne pour se remettre dans la foi. Mais jeûner pour tout et rien, on voit des hommes de Dieu, quelqu'un vient poser un problème, comme il ne sait pas quoi, dit, bon, jeûne 3 jours, jeûne 2 jours, jeûne 1 jour. On distribue les jeûnes comme des comprimés de paracétamol. Faut pas se moquer de Dieu. Il y a des béninois, il y a des citoyens, il y a des gens de foi qui ont fait du jeûne une idole. Ils croient au pouvoir du jeûne comme pouvoir spirituel. C'est de l'idolâtrie. Jésus est clair. Tout ce sur quoi vous fixez vos regards en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Beaucoup de pasteurs ont idolâtré le jeûne. Quelqu'un pose un problème, 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, 5 jours de jeûne. Je connais des artistes, ils vont sur la montagne, ils collent la jaquette de leur CD sur la montagne, ce qu'ils appellent montagne, et ils considèrent que si c'est là, bon, si le soleil brille dessus, Dieu va les bénir. C'est de l'idolâtrie. Ça n'a pas de nom. Parce qu'on croit que le jeûne sauve. Le jeûne ne sauve pas. Seul Jésus sauve. Même les anges ne sauvent pas. Regardez dans l'Apocalypse, quand Jean, recevant une révélation d'un ange, a voulu se procéder devant l'ange, il a dit, relève-toi, on n'adore que l'agneau, pas un pasteur, pas le jeûne. Et on parlait de parler à son père. Pour parler à son père, il y a différentes manières de converser. Je peux dire, bon, papa, je veux qu'on ait une séance de travail, on va avoir une réunion familiale. On s'assoit avec les frères, avec les sœurs, nous parlons pendant, on se retrouve à 20h, on est là à parler jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Ça peut arriver, et c'est bon dans une famille. Il peut y avoir des moments où je téléphone simplement, ah papa, je suis au boulot, il est 11h. Ah papa, ça va, j'ai pensé à toi, je voulais avoir de tes nouvelles. Tu as bien dormi, tout va bien, le boulot ça va, bonne journée à toi, au revoir. C'est fini. Ça peut être des situations, je suis au travail, on me pose un problème, je ne sais pas quoi décider. Ah, mais mon père a plus d'expérience. Papa, ça va, je t'appelle parce que je suis au boulot, j'ai tel problème. Qu'est-ce que tu en penses? Il te dit, ah d'accord, bon, on va en parler le soir, mais en attendant, fais ci, fais ça, fais ça. Ou je vais t'envoyer un SMS tout à l'heure. Ça peut être, je me réveille le matin, bonjour papa, ça va, je viens de me réveiller, tu t'es bien réveillé, ok, d'accord. Ça peut être, je crois, je me parle dans la journée, bonjour papa, dans le couloir. Allez, il y a différentes formes de conversation avec un père, selon les circonstances, selon les besoins, selon le moment, selon beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais imaginez quelqu'un qui décrète que lui ne parle avec son père que lors des veillées ou de 22h à 6h du matin, ils sont en réunion familiale. Mais il y a des choses qu'on doit pouvoir dire avec son papa en intimité. Je peux, dans ma voiture, en train d'aller au boulot, avoir besoin de quelque chose sur mon papa ou penser à quelque chose. Je ne vais pas appeler mon téléphone pour dire, papa, ça va. Je suis dans la voiture, en train d'aller au boulot, mais je viens de voir telle chose dans la ville là. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai fini avec lui, je raccroche, c'est 2 minutes. Bien. Mais c'est comme ça que Dieu attend que vous parlez avec lui. Si vous le croyez vivant, évidemment. Si vous le croyez comme une statue, vous attendez d'aller devant la statue pour parler. Dieu veut que vous parliez avec lui 24 heures sur 24. Vous êtes même dans le noir. Vous êtes dans la brousse. Il n'y a personne. Vous voyez un grand lion devant vous. Père, je sais que tu es toujours là. Aide-moi. Et vous ne le dites pas comme une formule. Parce que si vous le dites comme une formule sans y croire, c'est ce que vous croyez qui n'existe pas. Et que comme on a dit de le prier, vous l'avez prié. On peut être face au lion, dire Seigneur, aide-moi. Parce qu'on a dit de le dire. Comme on peut le dire avec en disant, dans tous les cas, il est là. Seigneur, moi, je n'ai même pas peur. Aide-moi. Celui qui vous regarde ne voit pas la différence. Mais dans votre cœur, vous savez la différence. Quand vous parlez à quelqu'un qui est là, même si vous ne le voyez pas, vous ne vous comportez pas comme quand vous parlez à quelqu'un que vous croyez ne pas être là. Regardez, ça vient de m'arriver. Vous avez encore plus de confiance et de foi dans vos morts qu'en Dieu. Quand un Benoît va sur la tombe de son père ou de sa maman qui est décédée, quand il parle à la tombe où il n'y a que des morts, regardez, il a l'impression que la personne est là vivante. Ou bien, aide-nous aux morts hein, qui a fini. Et le Dieu qui a créé tout le monde, qui a fait naître cette personne, qui lui a repris la vie, qui va te prendre, vous avez du mal à croire qu'on peut lui parler et puis lui entendre. Vous avez vu comment on se moque de Dieu? Parfois, derrière nos apparences très saintes, le peu de confiance qu'on a à Dieu est une vraie foutaise. Parce qu'on ne le voit pas. Savez, avant d'aller dans les choses compliquées, c'est ce béaba là qui énerve Dieu. Parce que vous ne me voyez pas. Avec tout ce que j'ai dit, avec tout ce que j'ai démontré, vous ne pouvez pas croire heureux ceux qui me croient sans m'avoir vu. Alors qu'en réalité, on le voit. Il a beau ne pas être visible, mais on ne dit pas les yeux de la foi, c'est-à-dire par tout ce qu'il fait. Moi-même, encore ce soir, j'ai des preuves de la puissance de Dieu. Mais il y a des situations dans lesquelles vous vous apprêtez à faire quelque chose et puis vous recevez une révélation tout simplement extraordinaire. Où Dieu attire votre attention sur quelque chose auquel vous n'avez pas du tout pensé qui vous aurait envoyé droit dans le chaos. Mais Dieu permet que vous-même, ou votre épouse, ou votre domestique, ou n'importe qui, vienne vous dire, papa, j'ai eu telle vision. Au début, vous dites, mais ça vous dit quoi? Vous cherchez, le Saint-Esprit commence à vous expliquer. Mais s'il ne vous l'avait pas dit, mais ça vous aurait coûté très cher. Moi, ça m'arrive tous les jours, c'est pas une fois en passant. Tous les jours. Ça m'est arrivé hier, ça m'est arrivé aujourd'hui, ça m'est arrivé ce matin, ça m'arrive ce soir. Et pendant que je vous parle, ça m'arrive. Mais il est vivant. Écoutez, Dieu est esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que quand un esprit parle, on appelle ça le parallélisme des formes, il ne peut parler qu'à un esprit. Ou bien, pourquoi vous voulez entendre Dieu par vos oreilles? Est-ce que Dieu vous a dit qu'il a des oreilles et qu'il a une bouche, qu'il a une chair? Vous donnez rendez-vous à Dieu dans votre chair alors que Dieu n'est pas chair. Vous devez donner rendez-vous à Dieu dans votre esprit. Ceux qui entendent Dieu ne l'entendent pas de leurs oreilles, sauf quelques rares fois. Ils l'entendent dans leur esprit. On dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que, je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'il faut. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui parle à votre esprit. Si vous savez qu'il est vivant, parce que Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent, rapprochez-vous de Dieu, il se laissera voir par vous. Si vous savez qu'il est vivant et vous l'écoutez dans votre esprit, vous allez être surpris de la fréquence et de la clarté avec laquelle Dieu parle. Évidemment, c'est comme toute personne. La première fois que quelqu'un vous appelle, vous décrochez votre téléphone, vous ne reconnaissez pas le nom, vous dites c'est qui. Pendant quelques fois, à moins d'enregistrer son nom, vous direz c'est qui. Mais au bout d'un certain temps, à force de parler avec lui, même si vous dormez à 2h du matin, le téléphone sonne, vous décrochez. Dès qu'il dit allô, ah Pierre, ouais, à force de parler régulièrement avec quelqu'un, On peut reconnaître sa voix parmi mille. Vous êtes même au marché, vous entendez sa voix, vous retournez. Et vous commencez à le chercher de regard, rien qu'à sa voix. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Il n'y a pas de brebis qui ne connaissent pas la voix de son berger. Parce que c'est devenu une voix familière. Il y a des choses qui pouvaient vous arriver ou qui vous arriveront aujourd'hui, vous les prendrez pour du hasard. Mais quand Dieu va utiliser les temps et les circonstances pour développer une relation avec vous, quand vous allez développer la relation avec lui, vous allez commencer à capter, vous allez réaliser, c'est comme, comment je vais dire, c'est comme là, on est là, vous allez voir, il n'y a pas de bruit. C'est comme s'il n'y a rien dans l'air. Mais allumez la télévision, mettez l'antenne, vous allez voir toutes les images qui passent. Allumez la radio, à chaque séquence, vous allez voir toutes les voix qui sont dans l'air. Mais on ne les entend pas. C'est pareil. Pour entendre l'émission de Radio Topa, pour entendre l'émission de Radio KPFM, c'est pas quand vous avez décidé d'écouter KPFM que KPFM émet, il émet en permanence. Mais si vous ne vous mettez pas sur la fréquence 99.6 précisément, si vous êtes à 99.5 sur certaines radios ou à 99.7, vous n'entendrez rien. Dès que vous êtes câblé à la bonne fréquence, on dit, mais ça c'était là depuis, je ne tombais pas dessus. Il y a des gens qui sont là contre nous, ça fait 10 ans, il y a des radios qui ne connaissent pas. Très jeune radio, sur laquelle la radio émet tous les jours, n'est-ce pas? C'est pareil, Dieu est là, il part. Vous n'allez jamais entendre Dieu alors qu'il est là, parce que vous n'êtes pas câblé sur la bonne fréquence. Ou bien, il fait des émissions le soir à 22h. Vous vous mettez à la radio à midi, vous dites que vous voulez écouter Dieu. Il n'a pas de programme à midi, il a un programme à 22h. Dieu donne rendez-vous aux gens dans des temps et des circonstances. L'autre chose, Élie nous l'a révélé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre Dieu parce qu'il y a trop de bruit dans leur cœur. Avec Élie, vous allez voir, quand il était dans la grotte, on dirait des tremblements de terre, des grands vents, des feux, des choses qui déchiraient la montagne. Mais Dieu n'était dans aucun de tout ça. Dieu n'est pas dans les grandes démonstrations de force. On lève la main, tous les fidèles tombent. Et puis c'est le pasteur, on touche, in God of Jesus, man of God. Et puis on niaise. Jésus ne fait pas de spectacle, il n'a jamais fait. C'est pas aujourd'hui qu'il commencera. Dieu n'aime pas le bruit.
On allait à des endroits, dès qu'on commence à parler de Dieu, il y a des gens qui commencent à crier, oui, et puis tombent, bon, les gens se roulent par terre.
Il y a quelques manifestations du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a déjà dit avec Élie, ne fais pas tout ce cinéma-là. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Avec Élie, lisez dans la Bible, on dit Dieu était dans le vent doux et subtil. Vous n'avez jamais vu Jésus arriver quelque part, puis les gens commençaient à s'agiter comme ça. Quand les gens s'agitent, ils calment l'agitation. Il n'a jamais induit par sa présence de l'agitation. Vous avez vu ça dans la Bible. C'est le diable, c'est la féticheuse qui, quand elle rentre en transe, sont agités. Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit prendre quelqu'un, se comporter comme un fou, se rouler par terre. Vous avez vu ça dans la Bible. Que le Saint-Esprit s'est mis sur quelqu'un, puis il a commencé à se rouler par terre et à déchirer ses habits. Vous avez vu ça où? Comme on a vu beaucoup les féticheurs faire là, bon, on a importé ça dans l'église, pas mimétisme. Donc quand le Saint-Esprit touche les gens, ils se comportent comme quand ils sont en transe au village. C'est tout, c'est le cinéma. On dit, man of God, et puis on écoute le cinéma comme ça. Pour impressionner les gens. Parce que vous ne croyez que les démonstrations de puissance visible et non pas le vrai. Dieu parle à votre cœur. Mais s'il y a des bruits dans votre cœur, vous n'entendrez pas Dieu. C'est quoi les bruits dans votre cœur? Les bruits dans votre cœur, c'est les petits démons qui s'agitent dans votre cœur en parlant. La peur, la jalousie, la colère, la rancune. Quelqu'un vous offense. Une voix vous dit, pardonne-le. C'est pas ça qu'on a dit à l'église? On dit, non, lui là, jamais je ne le pardonnerai pas. On a dit de pardonner, mais pas de pardonner celui qui a insulté sa maman. Même Jésus n'aurait pas pardonné ça. Notre voix dit, le pardon, c'est le pardon. Oui, mais je l'ai déjà pardonné hier. Tu pardonneras. Vous allez voir, quand quelque chose vous pousse à l'erreur, il y a toujours une deuxième voix qui vous pousse à la voix de Dieu. Alors, si vous regardez bien, votre cœur, votre esprit est toujours le champ de bataille entre plusieurs démons et entre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous poussant à faire le bien et les démons vous donnant des arguments de faire le mal. Exactement comme Jésus, sur la montagne, Satan vient, jette-toi. Les anges vont te prendre. Dieu a dit qu'ils te porteront sur leurs mains. Et il cite la parole de Dieu hein, pour piéger Jésus. Heureusement, Jésus connaissait la parole de Dieu, oui, mais il a aussi écrit, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Trois fois, il a cité la parole de Dieu pour induire Jésus en erreur. Trois fois, Jésus lui a répliqué par la parole de Dieu pour s'en sortir. Dans votre cœur, c'est toujours comme ça. Dans chaque situation de la vie, vous êtes au travail, vous êtes devant un client, il pose une question, quelque chose vous pousse à mentir pour vendre. Et tu vous dis, on ne ment pas. Hein. Mais si je ne mens pas, il ne va pas acheter. L'autre dit, ne mens pas. Tout ce que Dieu fait, bon, si c'est pour toi, ça viendra. Mais quand même, on a vendu il y a longtemps, je perds 2 millions comme ça à cause d'une seule parole, Dieu va me pardonner. L'autre dit, tu ne mentiras pas. Et si vous regardez bien, vous ne faites pas attention. C'est comme s'il y a une bataille dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui est en conflit avec les démons. Plus vous avez des démons de jalousie, de rancune, d'aigreur, de frustration, de médisance, de peur, ces démons-là s'agitent dans votre cœur et crient. Pendant qu'ils crient, ils couvrent la voix de Dieu. Et si vous ne savez pas faire un moment, vous entendez très clairement et très régulièrement et tout le temps la voix de ces démons, tellement que vous n'entendez plus la voix de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit quoi? Dieu siège dans les louanges de son peuple. L'une des consignes les plus importantes de Dieu, c'est de dire, gardez votre cœur en joie. C'est de lui que courent les sources de la vie. Ne vous inquiétez
de rien. Rendez grâce en toutes circonstances. Adressez vos prières à Dieu. C'est-à-dire que si vous regardez bien, Dieu a dit tellement de fois sous tellement de formes, ne laissez jamais l'inquiétude vous emporter. Parce que l'inquiétude, ce n'est rien d'autre qu'un démon qui essaie de vous convaincre que ça va mal se terminer. Tandis que le Saint-Esprit vous dit, par la foi, ça va bien se terminer. Si vous ne faites pas taire dans votre cœur ces démons qui vous disent que ça va mal se terminer, tu pries et dis, au nom de Jésus, cette année, je vais avoir un emploi. Je dis, quel emploi? Tu n'as pas eu l'emploi quand les affaires marchaient bien, quand le port tournait. C'est maintenant que le pays est en crise que tu vas avoir des emplois. N'importe quoi. Regarde ton église, ils sont là en train de prier depuis. Combien de personnes ont trouvé l'emploi depuis que tu pries? Vous croyez que c'est vous-même qui on dit, ça vous vient dans l'esprit. Ça vous vient d'où? Mais c'est le démon qui est là, en train de vous parler, comme il a parlé à Jésus. Et le Saint-Esprit vous dit, oui, mais Dieu peut faire l'impossible. Vous n'avez pas la même histoire avec Dieu. C'est une question de foi. Est-ce qu'ils ont de la foi? Vous allez vous rappeler de certaines choses que votre pasteur, votre prêtre a dit. Vous allez vous rappeler des choses que j'ai dit. Le démon va vous donner une réplique. Et vous allez commencer. C'est comme si dans votre cœur, il y a une discussion entre la vérité et les manipulations de Satan. Si les manipulations de Satan, les idées de découragement, vous les laissez gagner, vous venez de signer un contrat avec Satan pour lui faire plus confiance qu'à Dieu. Et dans ce cas, Dieu dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, vous mettez Dieu là, vous le regardez, vous lui posez des questions, il répond. Vous posez des questions, Satan, il répond. Vous dites, bon, je préfère ne pas trop compter sur cet emploi-là. Vous venez de décider quoi? Après analyse des faits, considérant ce que Dieu a dit, et considérant ce que les démons m'ont dit, je décide que c'est les démons qui ont raison. C'est ça que ça veut dire, c'est se décourager. Quelle plus grande insulte on peut faire à Dieu que de l'amener au tribunal de votre petite personne, d'oser lui poser des questions, il répond, et de décider, après avoir étudié sa parole et celle de Satan, que c'est Satan qui a raison. C'est pour ça que Dieu pardonne, oui, mais l'une des choses que Dieu a apparemment le plus de mal à pardonner, c'est le manque de foi. Il est impossible de plaire à Dieu quand après l'avoir écouté, après avoir écouté Satan, on décide que Satan a l'air d'être plus vrai que lui. Et parce que Dieu lui-même, parce que vous savez, Satan connaît Dieu mieux que vous. Et vous allez voir, on parle de l'Ancien Testament que comme la loi. Vous regardez, le royaume de Dieu, ce n'est pas pour rien que c'est un royaume, est juridiquement bien organisé. Vous allez voir, dans la parole de Dieu, Dieu parle de Satan comme l'accusateur de vos frères. C'est un procureur de la République. Regardez comment il a fait pour Job. Il vous met en accusation, il soutient l'accusation, il plaide l'accusation et il demande que vous soyez condamné. Et quand vous êtes condamné, il vous met en prison. Mais il ne le fait pas en l'air. Il sait que le royaume de Dieu a des règles. Dieu a beau être Dieu, en tant que Dieu juste, il ne peut pas violer une seule de ces règles. Donc Satan, connaissant les règles mieux que vous, essaie de vous accuser et d'utiliser les lois de Dieu pour le rendre en incapacité de vous acquitter. C'est son boulot. Il sait par exemple que quoi que Dieu veuille faire, on dit, Dieu a dit, c'est par votre bouche que vous serez acquitté ou condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous déclarez s'accomplira. Satan, sachant ça, sachant Satan que c'est vous qui êtes les bêtons, c'est-à-dire c'est vous qui êtes, qui avez reçu dans la Genèse tout pouvoir de régner sur la terre, de dominer sur la terre. C'est vous qui avez reçu le pouvoir de Dieu de créer par la parole. Regardez avec Ézéchiel. Dieu était là. Dieu n'a pas redonné vie aux ossements desséchés. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné vie. Dieu a dit à Ézéchiel de faire son boulot, de leur ordonner de reprendre vie. C'est l'homme qui sur la terre a le pouvoir. Mais il a tellement de pouvoir que tout ce qu'il décide se passe. Si vous êtes président et vous avez bu, vous dites qu'il faut tuer quelqu'un, on va d'abord le tuer. Si quand vous finissez d'être sous, vous dites, mais pourquoi on l'a tué? On va dire, mais pendant que tu étais encore là, tu as dit de le tuer, mais il est mort. Ah non, je ne voulais pas le tuer, vous avez créé des problèmes, je vais avoir des rébellions. Mais vous avez dit de le tuer. Et j'ai dit dans la colère, oui, mais vous avez dit de le tuer, nous on est là pour exécuter. Un homme, surtout qui connaît Dieu, qui a le Saint-Esprit, sa parole, c'est comme la parole d'un chef d'État. Quand vous dites les anges et Satan, selon qui ça arrange, l'exécute. Et Satan ne peut rien accomplir dans votre vie si vous ne le décrétez pas, parce que c'est votre vie. Satan ne peut pas vous rendre malade si vous ne le décrétez pas. Parce que Jésus à la croix a déjà vaincu la maladie pour vous. Et Satan le sait. Mais Satan sait aussi que, bien que Jésus à la croix ait vaincu la maladie pour vous, si vous décidez d'être malade, Jésus lui-même ne peut rien pour vous empêcher d'être malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une mise en scène. J'appelle ça des mises en. Il va faire une mise en scène de maladie. Et il va vous donner les symptômes d'une maladie. Par exemple, une fièvre. Vous avez le choix. Soit vous faites confiance à Dieu qui a dit que la maladie a été vaincue à la croix. Et vous dites, Satan fout le camp. Cette fièvre-là ne peut qu'être du leurre. Je ne veux pas me séparer de ma ceinture de vérité. Je m'en fous de la réalité que tu me montres, que les médecins y ont vu. La vérité en Jésus, c'est que je ne peux pas être malade. Point final. On vous présente effrayant, foutez-moi le camp. Vous voulez me faire dire que Dieu ment? Il a dit que je ne peux pas être malade. Quitte à mourir, je ne peux pas être malade. Foutez-moi le camp. Non, c'est comme ça, Satan fout le camp. Parce que vous l'avez vaincu en lui rappelant et en croyant à la parole. Mais qu'est-ce que la plupart des gens font? Quand Satan fait sa mise en scène de fièvre, ils disent, ah, c'est comme si je suis en train d'avoir un palu. C'est comme si j'ai la grippe. Il me faut prendre un médicament. Vraiment, le palu, là,
vous commencez à décréter. J'ai le palu, j'ai le palu, j'ai le palu. Satan dit, vous avez entendu? C'est là-bas. Tout ce que sa langue dit s'accomplit. Écoutez, écoutez, vous n'avez pas bien entendu, il vient encore de dire. Laissez-moi lui appliquer la dose. À ce moment, Dieu veut, Dieu ne veut pas. C'est ta bouche. Toi qui as dit que tu as le palu. Quitte à te le donner, que tu pries encore pour dire que tu vas guérir, il va courir pour vite te guérir parce que maintenant tu as compris. Il est obligé d'abord de t'appliquer la dose en espérant au moins que ça va concourir à ton bien en te montrant que ce n'est pas dans ton intérêt de dire n'importe quoi. Et c'est là où tu auras été malade par ignorance. Il nous dit, vous périssez faute de connaissance. Parce que vous ne connaissez pas vos droits. Donc, le Saint-Esprit, là, il nous parle. Nous devons l'écouter. La vie de foi, c'est la vie avec un Dieu vivant. On ne peut pas vivre et discuter et marcher avec quelqu'un de vivant sans parler avec lui et sans l'écouter. Et vous ne pouvez pas parler avec Dieu sans parler avec son esprit. Vous ne pouvez pas parler avec son esprit sans être baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire sans recevoir en vous le Saint-Esprit. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit si vous ne croyez pas que Jésus est vivant et que vous le prenez pour un fait historique. Donc, croire que Dieu existe. Croire qu'il est vivant avec toutes les attributs d'une personne vivante. Croire qu'il est vraiment puissant comme il le dit. Croire qu'il est partout. Par exemple, on voit des gens, ils mettent une médaille miraculeuse. Ils mettent une bague de je ne sais trop quoi. Ils mettent une croix de je ne sais trop quoi. Ils prennent des statues de je ne sais trop quoi. Ils disent que c'est Dieu. C'est une insulte à Dieu. Est-ce que votre statue peut être omniprésente? Est-ce que votre médaille peut être omniprésente? Quel est le problème quand vous commencez à représenter Dieu? C'est que vous diminuez Dieu. Il y a des gens qui se sentent en danger parce qu'ils viennent de perdre leur médaille miraculeuse. Il y a des gens, ils tombent malades, ils appellent le pasteur, disent le pasteur en voyage, le pasteur en voyage. Là, le pasteur est devenu leur idole. Il y a des gens qui sont morts à la guerre parce qu'ils disaient, j'étais invincible parce que j'avais ma médaille miraculeuse. J'ai perdu ma médaille miraculeuse, c'est que Dieu veut que je meure. Effectivement, ça n'a pas mis longtemps, leur a tiré dessus, ils sont morts. Et ils disent que c'est parce qu'ils ont perdu leur médaille. Non. Le Dieu que je sais est partout, que j'ai une médaille ou pas, que j'ai une croix ou pas. Même dans la fosse au lion, même dans la fournaise. Même dans le ventre du poisson, Dieu est là. Si vous décidez de croire que Dieu est limité à votre objet, mais chaque fois que vous n'avez pas d'objet, ou chaque fois que l'objet auquel vous avez accroché Dieu à tort n'est plus là, vous êtes un handicapé. Croire que Dieu existe, c'est croire sa parole. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes, que tu me crois, et tout ce que j'ai dit, tu dis que c'est faux. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes, tu ne peux pas dire que tu me crois, si tu ne sais rien à ce que j'ai dit. La Bible, c'est la parole révélée de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez la personnalité de Dieu. C'est comme quand vous regardez des films. Si vous regardez des films comme par exemple les James Bond là, ou vous regardez les films de Steven Seagal un certain nombre de fois, après avoir vu un certain nombre d'épisodes, vous connaissez à peu près la personnalité du héros. Vous savez quel est le tempérament, quelle est la personnalité de ce héros là. Quel est son genre, qu'est-ce qui n'est pas de son genre. Si on vous dit par exemple que James Bond a été quelque part, il a vu une femme toute nue qui s'offrait à lui, il a refusé. Vous dites, hey, c'est le même James Bond que je connais. Vous n'avez pas besoin d'être là, ou bien. Ou si on vous dit que bon, on a tourné James Bond et puis il n'y a aucun effet spécial, il n'y a pas de nouvelle arme, il n'y a pas de nouveau gadget. Il s'est battu avec un bâton. James Bond s'est battu avec un bâton. C'est faux, c'est pas James Bond. Tu es sûr que c'était James Bond? Ou bien, donc, même si vous n'avez jamais vu la personne, le fait de voir certains de ses écrits ou de connaître certains de ses scénarios vous permet de découvrir progressivement sa personnalité, de pouvoir savoir à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et quasiment de pouvoir l'anticiper. D'accord? Quand vous voyez par exemple Steven Seagal, vous allez voir, il se bat. Je suis sûr que c'est comme ça que Jésus se bat. Il ne fait pas d'efforts. Il gifle les gens. C'est-à-dire, on sent qu'il s'amuse avec l'adversaire. On n'a jamais à avoir l'impression que Steven Seagal fait des efforts pour vaincre quelqu'un. Ça, c'est le modèle, le prototype, c'est la personnalité qu'on a voulu donner à cet acteur-là. Quand vous prenez Jackie Chan, c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui se bat en s'amusant quasiment, qui se bat en vous faisant rire, mais qui fait mal, qui est très agité comme ça. Ces choses-là sont constantes dans tous les Jackie Chan. Quand on parle de Tintin, il y a une personnalité. Je ne sais pas si vous me suivez. En lisant la Bible, vous avez la chance de découvrir Dieu dans sa personnalité. Bon, il y a des choses, on va me dire aujourd'hui que Dieu a dit, je dis c'est faux, c'est pas possible, Dieu ne peut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que Dieu parle, mais je sais que Dieu parle, je sais que Dieu ne se contredit pas, et je sais qu'il a écrit telle chose là qui font qu'il ne peut jamais t'avoir dit ça là. À moins que vraiment il m'explique comment les deux sont contradictoires et possibles. Parce que parfois c'est nous qui n'avons pas le discernement de réaliser que des choses apparemment contradictoires ne sont pas contradictoires. D'accord? Donc, quand vous allez commencer à lire régulièrement la parole de Dieu, ou des livres qui commentent la parole de Dieu sur différents sujets, donc ça vous permet de commencer à connaître la Bible, vous allez découvrir progressivement la personnalité de Dieu. Vous saurez comment il fonctionne. Vous saurez ce qu'il aime. Vous saurez ce qu'il n'aime pas. Vous saurez dans tel cas comment Dieu fait souvent. À telle enseigne que Dieu ne sera jamais entièrement prévisible. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous saurez que ça, là, ça ressemble à Dieu. Moi, il y a des situations dans lesquelles je peux dire à quelqu'un, attention, tu risques d'avoir tel genre de scénario. Tel que je connais Dieu là, ça lui ressemble. Et ça se passe exactement comme ça. Je sais par exemple que quand vous venez à Dieu, ou quand vous apprenez une nouvelle leçon avec Dieu, comme par exemple la leçon de la foi, ne vous faites aucune illusion. Dans les prochains jours, vous allez avoir, peut-être même dès ce soir, vous allez avoir des tests de foi. Vous allez avoir immédiatement des occasions, comme à l'école, quand on finit de donner une leçon à quelqu'un, on lui fait une épreuve. Dieu va vous envoyer dans les prochaines heures des occasions sur différents sujets. La santé, les affaires, bref, des préoccupations que vous avez, Dieu va vous envoyer immédiatement une occasion de faire des travaux pratiques. Pour voir et pour vous faire voir vous-même si vous avez déjà compris, si on peut vous passer en classe supérieure ou si vous n'avez pas encore compris, s'il faut retourner apprendre. Mais ce qui est sûr, Dieu est un peu comme un père. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre quand on dit notre père. Quand votre enfant, qui a par exemple 2 ans, qui parle à peine, qui commence à parler, vous lui donnez quelque chose et il dit dans ses petits mots d'enfant, dit précisément, Miachi ou Msi, on n'entend même pas ce qu'il dit. Vous êtes tellement content de voir qu'un petit de cet âge-là apprend déjà la politesse que vous êtes capable de le combler de tous les cadeaux qu'il faut parce qu'il a dit merci. C'est bête, hein? Mais ça vaut de l'or. Un enfant qui ne sait pas parler, qui dit merci ou qui est organisé, qui dit bonjour, qui est poli, qui fait des choses qui sont pour un adulte banal. Et personne ne va te féliciter parce que tu as dit merci à ton âge. D'accord? Ça veut dire que quand vous commencez quelque chose de nouveau avec le Seigneur, un peu comme tout enfant, Dieu vous bénit rapidement pour vous récompenser de cette expérience-là. De sorte que vous soyez rapidement convaincu par lui-même que c'est ça la vérité. Il y a des choses que moi je ferai avec Dieu, il ne va rien faire pour me récompenser de ça. J'ai dépassé ce niveau-là. Mais si toi tu les fais, immédiatement il va t'avoir une grande bénédiction pour que tu puisses témoigner. Ah, j'ai entendu telle chose, j'ai fait telle. Mais vous savez ce qui m'est arrivé? Il est en train, comme tout enfant, de t'encourager à comprendre. Quand tu as maîtrisé ça, c'est que ça tu maîtrises. Tu fais ça, c'est bon. Si on ne fait pas, on va dire, mais quel est cet impoli là? Il ne sait même pas dire merci. C'est pas pour ça qu'on va te faire des cadeaux. Il y aura deux choses plus importantes pour lesquelles tu donnes rendez-vous. Et comme ça, en évoluant dans la vie, les défis se présenteront de plus en plus. Dieu va te donner la leçon. Quand tu penses que tu l'as compris, il t'enverra une épreuve pour voir si tu l'as comprise. Si tu passes l'épreuve, tu passes en classe supérieure, tu donnes des bénédictions, le bulletin, des cadeaux, des vacances, tu penses que c'est la fin de la vie. Ce n'est que en attendant la prochaine rentrée. Tu passes le BPC, on te fait la fête, on t'achète moto, vélo. Attends de rentrer en seconde, les cours de mathématiques de physique vont commencer. Tu vas voir que ce n'est pas fini. Chaque défi relevé, Dieu le bénit pour te remotiver, pour t'encourager. Mais ce n'est que la veille d'un autre problème qui vient. C'est pour ça que nous allons de défi en défi, pour grandir en sagesse avec Dieu. C'est comme ça dans la vie. Parce que vous devez comprendre que nous ne vivons pas pour la vie. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes des esprits ayant vocation à vivre dans l'éternité au paradis. La terre n'est qu'un camp d'entraînement pour préparer nos esprits et nos cœurs à être éligibles au ciel. Donc oui, il faut que nous soyons heureux ici. Mais le plus important, même si ici n'est pas à négliger, c'est de rentrer là-bas. Et d'être bien positionné là-bas. Et quand Dieu donc va gérer votre vie, ce n'est pas que pour satisfaire vos caprices, c'est pour vous donner ce qui est possible dans vos caprices, mais surtout vous garantir l'accès là-bas. Quand vous avez un enfant, il y a de ces caprices que vous satisfaisez de temps en temps pour lui faire plaisir, mais votre vrai objectif c'est de lui faire ici, de lui faire avoir son bac, de lui faire aller à l'université, de lui faire devenir quelqu'un qui va se marier, qui va être heureux, qui va avoir une carrière. C'est ça votre objectif principal. Qu'on lui permette d'acheter des robes, des bonbons, une moto, un ordinateur. Ça, c'est des accessoires que le parent donne pour meubler le chemin pour que la vie de l'enfant soit agréable. Mais s'il y a des défis majeurs qui sont au cœur des parents, ce n'est pas d'assurer des vacances à leur enfant. Les vacances, Dieu ne vous les assure, votre père ne vous les assure que pour vous motiver pour la prochaine année scolaire. Les bénédictions sur la terre, Dieu ne vous les donne que dans le processus de vous encourager à vous préparer à être assidu à l'école de la vie pour le ciel. La vie ne s'arrête pas ici. Il n'y a rien que vous puissiez obtenir ici qui vaille le milliardième de ce que vous aurez là-bas. Donc, vous devez avoir cette perspective-là pour comprendre les choses. Donc, vous devez parler au Père. Vous voyez, je suis encore sur notre Père, 2 mots. Je n'ai pas fini de parler depuis. Parce que Jésus priait de longues heures la nuit. S'il priait longtemps, ce n'est pas à force de répéter la même chose. C'est parce que quand on prend le mot « notre » seulement, on peut utiliser ça comme sujet pour parler à Dieu longtemps. Notre, prier pour le pays, prier pour les frères, prier pour les sœurs, prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, prier pour le continent, prier pour les malades, prier pour... Notre, là déjà, tu peux être en train de parler avec Dieu toute une nuit. Et quand tu commences à parler à Dieu, d'autres choses te viennent. C'est-à-dire le Saint-Esprit te donne d'autres révélations. Tu as pensé à telle sœur qui est malade, à telle tante. Si ce n'est pas fait, tu n'as même pas le temps de venir sur le problème que toi tu as posé à Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Priez pour les autres, Dieu s'occupe de vous. Ça, c'est le nôtre, le Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire respecté. On ne peut pas sanctifier le nom de quelqu'un quand on ne le connaît pas. Dieu est omnipotent. Les gens pensent qu'il ne peut rien ou qu'il est limité. Ah, ce problème-là est trop compliqué. Je vois des gens qui disent, « Maoutin ou Azan Samoa, ne donne au fini. » Je dis, « Mais moi, c'est bloha. Etienne au fini, mon blo. » Vous n'allez pas voir des gens qui disent ça. « Non, Maoutin ou Azan Samoa. » Dieu ne peut pas faire ce miracle-là. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. C'est quoi le quelque chose qui est derrière qui est censé être plus fort que Dieu? Mais regardez avec quelle banalité les gens méprisent Dieu. C'est-à-dire que, contrairement à nos discours, notre comportement trahit un vrai mépris de Dieu. Il trahit, on dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et tous les jours, par nos discours, nous trahissons que notre cœur n'est pas très amoureux de Dieu. Dieu veut quelqu'un qui l'aime et qui le bénit, mais pas quelqu'un qui fait semblant de l'aimer pour être béni. J'ai déjà expliqué ça ici. C'est la différence entre une prostituée et une femme qui vous aime. La femme qui vous aime, c'est pas qu'elle ne sait pas que si elle vous aime alors que vous êtes quelqu'un de riche, vous allez la bénir. Mais elle vous aime d'abord pour qui vous êtes. L'une des meilleures manières de le savoir, c'est quand vous êtes pauvre. Moi, en tout cas, par rapport à ma propre expérience, si un jour je dois conseiller mes petits frères, je leur conseille même dans certains moments de leur vie de faire semblant d'être pauvre, ils connaîtront le vrai visage de leur femme. Il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, qui sont avec des femmes. Le jour où leurs moyens diminuent de 20%, leur femme devient autre chose qu'ils n'ont jamais vue. Si jamais ils traversent une période rouge de 6 mois où ils ont des problèmes financiers, c'est là qu'ils voient le vrai visage de leur femme. Parfois, Dieu vous aide, vous vous enlevez pour pouvoir réagir. Parfois, il y a des gens dont la vie se termine comme ça. Parce que, tant que vous avez de l'argent, toutes les femmes, ou en tout cas beaucoup de femmes, seront toujours prêtes à venir tout faire pour vous convaincre qu'elles vous aiment. Mais la différence entre une femme qui t'aime, de telle sorte que même si tu n'as rien, elle t'aime quand même en disant « ça va aller, si ça ne va pas, c'est pas grave, je t'aime pour qui tu es, j'aime passer du temps avec toi ». Une femme qui t'aime pour qui tu es, même si tu ne lui donnes rien, surtout quand tu ne lui donnes pas rien, quand tu as quelque chose, tu es heureux de le lui donner. Et cette femme-là, elle se marie avec toi, tu deviens milliardaire ou tu es milliardaire, on ne dira pas que c'est une prostituée. C'est ta femme, mais elle a été bénie d'avoir la chance d'aimer quelqu'un qui est riche. Mais il y a une différence entre ça et une femme qui dit et qui sait, même si elle ment, je ne l'aime pas, il ne me plaît pas, c'est pas mon genre. Ce type-là ne me dit rien. Mais il a l'argent, il a le bon. Et qui commence à tout faire pour le séduire, pour lui plaire, pour se comporter comme elle sait qu'il aime, qu'on se comporte et qu'on sort. Et nous, idiots comme nous sommes, on tombe dans le panneau. On pense que c'est elle qui nous aime plus que tout. On se marie. Ça, c'est une prostituée. Elle ne t'aime pas pour qui tu es. Elle fait l'effort de t'aimer pour que tu puisses la financer. C'est la définition du mot prostituée. La question, on n'a pas besoin de répondre ici. Vous allez en discuter dans votre cœur avec le Saint-Esprit et y répondre. Êtes-vous un prostitué aux portes de Dieu ou un amoureux de Dieu? Aimez-vous Dieu pour qui il est, même s'il ne vous donne rien, ou essayez-vous de l'aimer afin qu'il vous donne quelque chose? Et n'oubliez jamais de vous rappeler comment un homme traite une prostituée et comment un homme traite une femme qu'il aime. La prostituée aura de l'argent, c'est sûr. Le jour où il se couche parce qu'il n'a pas le choix, il va lui balancer 500 ou 1000 francs. Ça coûte de moins en moins cher. S'il paye trop, c'est 2000, c'est 3000, c'est 5000. Si c'est une prostituée de luxe, donc à un an de 1 million, hein. Même s'il lui donne 10 millions, c'est pas grave. Mais c'est une fois. Mais il n'a même pas fini qu'il se sent sali, se lave et puis s'en va en même temps. Tu veux parler, il va te gifler. Bon, parce qu'il en a beaucoup, une prostituée, il y en a 1000. Il n'y a pas de fidélité envers une prostituée. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de gentillesse. On ne l'amène pas dans certains milieux. Quoi qu'elle veuille ou quoi qu'elle ait, ce sera toujours très limité. Et elle ne pourra jamais compter sur lui longtemps. Parce qu'elle n'est pas la seule prostituée qui hésite au monde. Parce qu'il voudra changer. S'il a l'argent pour s'acheter des prostituées, pourquoi il va s'encombrer avec la même prostituée tout le temps? Mais quand un homme aime une femme, ce qu'elle en tire, comme bonheur, comme tendresse, comme amour, comme présence, comme réconfort, comme soutien, comme ci, comme ça, y compris toutes les munitions matérielles, est incommensurable et incomparable à ce que le même homme pourra jamais faire pour une prostituée. Si vous êtes des prostituées au port de Dieu, dans le meilleur des cas, il va vous jeter quelques miettes. Mais si vous êtes amoureux de Dieu, vous verrez que Dieu est doux. Maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre d'essayer d'être amoureux de Dieu pour voir qu'il est doux. C'est ça le problème. Ou vous aimez Dieu, ou vous ne l'aimez pas. Mais vous ne pouvez pas aimer Dieu sans connaître Dieu. Les gens essaient d'aimer Dieu sans connaître Dieu. Écoutez, les personnes qu'on voit comme ça là, qui sont concrètes, qu'on peut toucher, avant de les aimer, c'est ce que tu connais de quelqu'un qui fait que tu l'aimes, que tu le détestes. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu, dont vous n'avez jamais parlé, que vous n'avez jamais croisé, c'est que vous n'avez jamais rien lu, vous n'avez jamais vu sa photo, on peut l'aimer? Mais beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment Dieu, alors qu'ils n'ont jamais vu la photo de Dieu, qu'ils n'ont jamais entendu Dieu, on ne leur a jamais parlé du vrai Dieu. Comment on peut aimer ce qu'on ne connaît pas? C'est pas surprenant que beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu, ils ne connaissent rien à Dieu. Pour aimer quelqu'un, il faut le découvrir, le pratiquer, l'expérimenter, l'éprouver, essayer des choses avec lui, lui parler, voir ses réactions. C'est à travers tout ça, on dit, la proximité crée l'affinité, crée l'intimité. La même manière que vous fréquentez un garçon ou une fille, et à force de vous parler, de voir que mais vous êtes compatible, mais finalement il est gentil, mais finalement il est tendre, je ne sais pas qu'il était patient comme ça, je ne sais pas qu'il était fidèle, je ne sais pas qu'il est toujours disponible, je ne sais pas que dans le moment de difficulté, il va réagir comme ça. C'est ce que vous découvrez de positif sur l'autre qui fait que vous tombez amoureux de l'autre. Vous vous bandez les yeux, vous fermez les oreilles, et vous dites, bon, présentez-moi une femme, je vais essayer de l'aimer. Parce qu'on m'a dit qu'elle s'appelle Dieu. C'est ce que vous faites. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se forcer à aimer le néant. Beaucoup de gens considèrent Dieu comme le néant. Comment on peut aimer le néant, bon Dieu? Si vous voulez tomber amoureux de Dieu, commencez à courtiser Dieu. Il se révèle aux gens qui le cherchent. Frappez, il vous ouvrira. Cherchez-le, vous le trouverez. Demandez-le, il se révélera à vous. Écoutez-le, parlez-lui, posez-lui des questions, essayez des choses avec lui. Allez en sa présence. Comme lui, il est parfait, vous ne pouvez pas le découvrir et ne pas l'aimer. Mais vous ne pouvez en aucun cas l'aimer si vous ne le connaissez pas. Parce que dans tous les cas, l'idée que vous faites de lui aujourd'hui est généralement fausse. Je vous invite à vous donner les moyens de découvrir Dieu, de fréquenter Dieu, de connaître Dieu. Ce n'est pas compliqué. Dieu, c'est la parole de Dieu. Il a dit lui-même, Dieu est sa parole. La parole de Dieu a tous les attributs de Dieu. Si vous ne pouvez pas lire la Bible parce qu'effectivement, parfois, c'est ennuyeux, parce que c'est beaucoup de livres,
Vous avez là 2000 livres. Il y a des personnages bibliques. Vous avez par exemple l'histoire des gens comme Job, comme David, comme Élie, comme Salomon, comme Jacob, comme Paul, comme Moïse. Vous avez des livres sur le Saint-Esprit, sur la guérison, sur les couples, sur les, la famille, des commentaires du livre des Proverbes, des commentaires du livre du Cantique des Cantiques, des commentaires des paraboles, des psaumes, des livres pour, c'est-à-dire sur l'Apocalypse. Vous avez 2000 livres ici. Les livres qui sont ici là font presque 20 millions de valeurs. Si vous voulez prenez certains d'entre vous, vous allez voir 16 000, 20 000, 24 000. Allez à l'hébreu de John Miller, vous allez voir ce que coûte un livre. Il y en a 2 000 là gratuitement. Personne ne les lit. Vous voyez comment je suis bête d'avoir acheté tant de livres. Parce que quand vous prenez un livre, par exemple, sur l'Apocalypse, vous prenez un livre sur la guérison, vous prenez un livre sur David, quand vous le lisez, c'est des gens qui ont reçu des révélations. Des gens qui connaissent bien la Bible, des gens auxquels Dieu a parlé, des gens auxquels Dieu a donné un discernement particulier, peut-être pour comprendre toutes les leçons, beaucoup de leçons, beaucoup de révélations que Dieu nous donne sur la réussite, dans par exemple la vie de David. Moi, le premier livre chrétien que j'ai lu, c'est David, un homme sur le cœur de Dieu. C'était le premier livre que j'ai lu, même avant de donner ma vie à Jésus. Mais jusqu'aujourd'hui, je bénis Dieu pour l'avoir lu, parce que ce livre-là m'a préparé jusqu'aujourd'hui à ma vie. J'ai compris, par exemple, en lisant ce livre, que entre le moment où David a été oint roi et le moment où il s'est assis sur le trône, il s'est écoulé presque 40 ans. J'ai compris que le David, le plus grand roi, a été pris quand il n'était qu'un vulgaire berger. J'ai compris que tout le monde le méprisait, y compris son propre père. Mais ça n'a pas empêché. Son propre père, le prophète le plus célèbre, le plus réputé de l'époque, n'ont vu que du feu. Si peu y mener, on cherche des gens sérieux. Dieu dit, c'est le Sipéla qui m'intéresse, amenez-le. J'ai vu avec l'histoire de Saül, comment Dieu peut choisir quelqu'un qui devient un tyran, un idiot, un imbécile, qui se prend pour qui il n'est pas, jusqu'à ce que dit, maintenant ça suffit, je prendrai quelqu'un qui m'aime. J'ai compris comment on peut partir de rien, avec les 400 vaillants hommes de David, des gens qui n'étaient rien, des voleurs, des parias. Comme les États-Unis étaient bâtis. Les États-Unis étaient bâtis avec les parias. Les vaillants hommes comme David de l'Europe. C'est ça qui a bâti la plus grande puissance du monde aujourd'hui. Numéro un dans tous les domaines. David a régné le plus grand roi de tous les temps avec 400 voyous. Mais 400 voyous que Dieu lui a permis de gérer dans le maquis, dans la fuite, dans les grottes comme Ben Laden pendant 40 ans. Il a essuyé des défaites. Il a essuyé la honte. Il a été persécuté. Il a dû fuir. Mais il aimait toujours Dieu. Il respectait toujours Dieu. Et il avait des points d'honneur. Il a eu plusieurs occasions de tuer Saül. Il dit, Dieu dit, on ne touche pas son nom, moi je ne le touche pas, c'est pas moi qui vais l'attaquer. C'est-à-dire que vous lisez l'histoire, au-delà de l'histoire de David, vous voyez à travers l'histoire de David, mais comment Dieu manœuvre une destinée. Vous ne pouvez pas lire l'histoire de David et vous dire, moi je ne suis rien, je suis né dans une petite famille, personne n'a jamais été rien. Même si vous ne le dites pas, vous avez tous au fond de vous un côté ou une voix qui dit, on dit que toi tu vas être un grand quelqu'un, toi si tu crois, par quelle magie toi tu vas être un grand quelqu'un, par où? Tu vois pas comment le monde fonctionne? Et quand vous priez, pourquoi vous avez du mal à croire? Parce que Satan se charge de vous rappeler les raisons que vous avez de ne pas croire. Tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas de diplôme, tu ne connais personne, tu n'as pas de relation, les temps sont difficiles. Satan se charge de vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas. Mais quand vous lisez, soit la Bible elle-même, soit des livres qui ont pris un sujet de la Bible et qui les ont traités, vous découvrez la vraie personnalité de Dieu. Vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez être surpris de voir comment Dieu manœuvre. Donc pour connaître rapidement le cœur de Dieu, il faut découvrir, il faut lire les films de Dieu. Il faut regarder les épisodes des films de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître James Bond par cœur si vous ne regardez pas beaucoup de films de James Bond. Vous ne pouvez pas aimer James Bond si vous n'avez jamais vu de ses films. Le nom James Bond ne peut pas susciter de l'amour. Le nom de Dieu ne peut pas susciter de l'amour. Le problème des chrétiens, c'est de vouloir aimer un Dieu qui ne veut pas prendre le temps de connaître. Médite ma parole jour et nuit. Quand on aime une femme, on y pense jour et nuit. Il y a des gens qui trouvent que penser à Dieu une heure de temps tous les dimanches, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut aimer une femme en trouvant qu'en pensant à elle une heure, on commence à penser à elle le dimanche à 10h, il faut qu'on se sonne vite pour que j'arrête de penser à elle. On dit à la femme qu'on l'aime, soyons sérieux. Oui, on s'ennuie en sa présence. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime, le temps passe, on dit, ah, mais ouais, fille, 14h, elle est déjà 23h. Je vois des gens qui disent, mais comment vous restez, vous êtes en présence de Dieu pendant des heures, comment vous faites? Comment on fait pour être avec une femme et puis 4 heures de temps, pas 6 heures de temps, pensant à l'impression qu'on vient de passer 30 minutes. Quand vous aimez quelqu'un, ce n'est pas vous qui choisissez d'aimer sa compagnie. Vous êtes surpris malgré vous d'aimer sa compagnie. Mais vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas connaître ce que vous ne découvrez pas. Si vous êtes trop passionné pour lire des livres, nous avons des centaines de CD ici, des films, des CD de formation, des audios, toujours pour vous aider à découvrir le Dieu que vous devez aimer. Dieu n'a pas besoin de prostituer. Il y a des gens qui sont en Dieu pendant 30 ans. Mais comme ils ne sont que des prostituées faisant semblant d'aimer Dieu pour être bénis par Dieu, ils ont beau faire le tour de toutes les églises de Cotonou, recevoir les enseignements de tous les pasteurs, aller à toutes les séances d'évangélisation, aller voir les pasteurs qui vendent de l'eau, qui vendent de l'onction, qui chicotent le diable et tout ce que vous voulez. Ils n'ont jamais de résultat. Parce que Dieu n'est pas dans tout ça. Que ton nom soit sanctifié.
Vous voyez? Et là, je ne suis pas en train de prier, hein, je ne fais qu'expliquer. Imaginez que je devais être en train de parler à Dieu. Regarde le temps qui s'écoule. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Mais Dieu est le maître d'un royaume. Si vous êtes, par exemple, Dahoméen, vous croyez que vous êtes fort, même si vous êtes le premier ministre du Dahomey, ou bien vous êtes un grand Dahomey. Vous croyez que vous êtes fort quand vous êtes en pays Adja, ou bien vous êtes à Hobonou. Vous croyez qu'un Palestinien est fort quand il est dans le territoire israélien, ou qu'un Américain est fort quand il est dans les montagnes d'Afghanistan. Là où votre roi ne règne pas, vous n'êtes rien. Pour qu'un chrétien de la puissance et règne, il faut qu'il soit dans le territoire où son roi est le maître. Si vous êtes dans un milieu où c'est Satan qui règne, et hélas aujourd'hui, comme le dit Dieu, il est le prince des ténèbres de ce monde. Le roi sur la terre, c'est Satan, ce n'est pas Dieu. Mais il y a des microcosmes, il y a des environnements dans lesquels il y a comme des territoires où par les enfants de Dieu, Dieu règne. Si Dieu ne règne pas dans le territoire où vous êtes en danger. Vous êtes comme un Américain qui s'est retrouvé en Afghanistan. Donc quand vous priez, priez pour que l'armée américaine prenne le contrôle de votre territoire avant de jouer les Américains et de sortir votre passeport américain pour dire « Regardez mon passeport, je suis citoyen américain, vous devez me respecter. » Si vous êtes en Afghanistan, c'est alors qu'on va dire « Hey, il est là, Allah, au nom d'Allah, on le tue, rapidement, on va vous tuer. » J'essaie de vous expliquer les choses en terre à terre. Combien de fois vous n'avez pas récité notre Père dans votre vie sans jamais y penser? Je prie pour que vous ne passiez pas votre vie à faire semblant de suivre Dieu sans jamais y penser. Parce que là-bas, il va vous en demander des comptes. Priez pour que le règne de Dieu vienne. Je suis dans une entreprise. Que son règne vienne, que mon patron connaisse Jésus. Je suis dans une famille, je suis dans une concession. Que les dignitaires, que les chefs, que mes soeurs, que mes frères, que Dieu se manifeste, qu'ils prennent le contrôle de la vie, qu'ils les dirigent, que le président, que le juge, que le magistrat, que les ministres, que les députés connaissent le Seigneur. Vous ne priez jamais pour ça. Même quand les Israéliens étaient en captivité en Égypte, Dieu leur demandait de prier pour les Égyptiens. Parce que votre vie dépend toujours de la vie des gens qui vous gouvernent. Pour ça, Dieu dit, priez pour les autorités. Vous devez prier pour que le règne de Dieu vienne. Vous devez prier aussi pour que sa volonté soit faite. Parce que souvent, nous prions pour demander des choses. Mais ce que nous demandons n'est pas toujours le meilleur pour nous. N'est souvent pas le meilleur pour nous. Parce que pour savoir ce qui est bon, il faut savoir ce qui est. Notre perception de la réalité est fausse à 99%. Nous ne voyons presque rien de la réalité. Vous voyez quelqu'un, il est plein de sida, vous pensez qu'il est bien portant. Vous voyez quelqu'un, vous croyez qu'il est en bonne santé, il va vivre longtemps. Le lendemain, on vous dit qu'il a piqué crise cardiaque, qu'il est mort. Vous voyez quelqu'un qui a un cancer en phase terminale parce qu'il sourit, vous ne voyez rien. C'est-à-dire, en réalité, nous ne voyons rien. Vous voyez l'atmosphère, il n'y a rien dedans, alors qu'il y a des fréquences radio ici. Nous ne voyons rien. Comment celui qui ne voit rien peut décider ce qui est bon? Tu n'as pas de réactif pour prendre le sang de quelqu'un, analyser, voir les maladies qu'il a. Et tu dis que tu es docteur, tu veux prescrire des médicaments. Ou bien tu veux demander au pharmacien d'amener un médicament pour le traiter. Pour se demander, même si tu en avais le pouvoir, au pharmacien d'amener le médicament pour le traiter, il faut savoir de quoi il souffre. Tu ne sais pas voir dans le sang de quelqu'un. Si tu es un bon docteur, qu'est-ce que tu vas faire? Le chrétien a la possibilité non seulement de demander des choses à Dieu, mais d'avoir l'humilité dans certains cas de dire Seigneur, bénis-moi. Fais ce qui est bon. Parce que Dieu est un père. En tant que père, il fait toujours mieux que nous ce qu'il nous faut. Nos parents ont plus d'ambition pour nous que nous-mêmes. Nos parents sont encore plus respectueux de notre vie que nous-mêmes. Nos parents ont plus de soucis généralement pour nous que nous-mêmes. Il y a de temps en temps, on fait ce qu'on veut, on l'impose à ses parents. Et par amour, ils le font. Mais il y a des fois où nous n'avons pas une assez bonne perspective de la vie pour vouloir même quelque chose de juste. Un enfant qui a 8 ans ne peut pas choisir quelle école il va faire. Il va choisir l'école où vont ses amis. Il ne sait pas que c'est peut-être la pire école de la ville où ils ont toujours 2% de réussite au bac. Est-ce qu'un enfant de 8 ans va regarder les résultats du bac pour choisir son collège? Il s'en fout. Mais le père va dire, je te mets dans tel collège. Pourquoi papa? Non, tous mes amis sont allés au collège X. Je te mets dans tel collège. Parce que le papa est parti regarder les résultats du bac sur 10 ans, ils ont toujours fait 100%. Mais c'est un critère qui ne plaît pas à l'enfant. L'école est trop dure, les professeurs sont trop durs, on ne s'amuse pas n'importe comment. Les raisons pour lesquelles l'enfant de 8 ans n'aime pas le collège sont les raisons pour lesquelles si le papa est responsable, il doit l'envoyer là-bas. Donc si on devait laisser l'enfant là voir toutes ses prières à son papa exaucer, il ne va jamais réussir au bac. Et donc quand nous prions Dieu, il y a des fois nous devons lui demander de faire sa volonté pour nous, parce qu'elle est toujours meilleure que la nôtre. Nous pouvons demander des choses à Dieu, mais dis dans tous les cas, en général tu as mieux pour moi même que moi. Si ce que j'ai demandé n'est pas bon, fais le meilleur. C'est une question d'humilité. Et en général, on découvre, comme Dieu l'a d'ailleurs annoncé, que quand Dieu fait, il dépasse toujours de très très loin nos meilleures ambitions. Si Dieu dit qu'est-ce que tu veux, tu ouvres la bouche. Quand lui va faire, tu vas voir que tu aurais même dû te taire. Parce que ce qu'il a fait là, tu n'étais même pas capable d'imaginer. Quand on a mis Joseph dans un puits, si on lui demande qu'est-ce qu'il veut, il va dire sortir du puits et retourner voir son papa. Il ne va jamais devenir premier ministre d'Égypte. On dit tu es au chômage, qu'est-ce que tu veux? Trouver un emploi, gagner combien? 100 000. Tu ne vas jamais devenir président des États-Unis. Mais si Dieu veut. Tu peux être Benoît chômeur aujourd'hui et dans 10 ans président des États-Unis. Dieu peut faire ça. Mais toi, tu ne peux même pas rêver de ça jusqu'à demander. C'est ça que ça veut dire. Que ta volonté soit faite. Donc, à ce moment de la prière, on arrête de raconter plein de choses. On vient voir Dieu pour voir qu'est-ce que lui veut. Montre-moi ta volonté. Mets-moi sur le bon chemin.
J'ai pris telle direction. Est-ce que c'est ta volonté? Si oui, soutiens-moi de temps. Sinon, montre-moi la bonne direction. Ferme-moi les mauvaises portes. Ne me laisse pas perdre de temps. Ne me laisse pas me disperser. Donne-moi du discernement. Préviens-moi des erreurs. Parle-moi. Tu as dit que tu auras le regard sur moi. Tu as dit que parce que Dieu aime qu'on lui rappelle, il dit rappelez-moi mes paroles. Tu ne peux pas rappeler à quelqu'un ses paroles quand tu ne les connais pas. Un avocat, quand il vient au tribunal, dit oui, d'après l'article tel, il est écrit que nul ne peut être détenu plus de 48 heures sans jugement. Mon client était détenu 72 heures. Je réclame qu'il soit relaxé purement et simplement et que cette procédure soit terminée. Mais comment il peut le dire s'il ne connaît pas la loi? Vous ne connaissez pas ce que la Bible dit. Comment vous allez l'évoquer pour discuter avec Satan? Satan va vous dire, oui, Dieu a dit que si tu pêches, tu iras en enfer. Et vous êtes tout petit, vous n'osez même plus prier. Alors que si vous connaissez la loi, vous allez dire, mais il est aussi écrit que 7 fois le juste homme, autant de fois il peut se relever. Dieu est miséricordieux. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Si quelqu'un demande de le repentir, Dieu le lui accorde. Dieu est miséricordieux. Il pardonne 7 fois, 77 fois. Il est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés. Comment peut-il refuser après ça de nous pardonner nos péchés? Moi, je suis quitte parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Mais si vous ne connaissez pas la loi, Satan va vous intimider. C'est ça, la foi. On n'est que ta volonté soit faite. Hein. Et c'est vrai que je n'ai pas encore beaucoup de temps. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de réciter le Notre Père 100 fois et le jour où ça allait marier 50 000 fois pour occuper le temps de prière. Il y a quand même des manières plus intelligentes de parler à Dieu. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là encore, je peux en parler des années. Regardez, c'est à ce moment-là qu'on demande à Dieu le pain de ce jour. Le pain, c'est d'abord la nourriture. Le pain, c'est tout ce dont nous avons besoin matériellement. Mais le pain aussi, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, et il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. À ce moment de la prière, il faut demander à Dieu de parler. Il faut demander à Dieu de me donner ma réponse de ce jour, de me donner ma révélation de ce jour, de me donner ma vision de ce jour, de me donner les conseils, la direction de ce jour. C'est qu'il y a des problèmes dans la vie où on se fatigue. Vous êtes là, une idée vient. Mais merde, comment je n'y ai pas pensé? Vous appliquez, vous battez tout le monde. Comment il a fait le petit Guidibi là? Mais il crée toujours, il crée. Je n'ai rien créé. Je reçois mon pain quotidien. Quand Dieu vous donne une parole, quand vous faites des choses, le monde crie. Mais comment il a fait? Il n'a rien fait, il a reçu. Et en philosophie, pour expliquer ce phénomène où l'esprit reçoit de grandes révélations, qu'est-ce que les gens disent? Ils appellent ça de la réminiscence, manière idiote d'expliquer la révélation de Dieu. Que oui, il y a des choses qu'on avait certainement vécues dans d'autres vies et qui reviennent à notre mémoire, des niaiseries comme ça. Notre pain de ce jour, c'est le moment où il faut interpréter pour dire, mais Seigneur, tu as dit que tous les jours, tu es capable de faire venir à moi, quel que soit le besoin, toutes sortes de bénédictions et de grâces, de sorte que j'ai toujours ce qu'il me faut, et en plus des suppléments. Tu as dit que tu es capable de me bénir selon ta richesse et ta gloire, que je ne manquerai jamais de pain, parce que même les oiseaux du ciel, sans rien semer, ne manquent pas de nourriture. Donne-moi la nourriture de ce jour, à moins que tu sois un menteur. Je sais que tu n'es pas un menteur, donc moi je mange aujourd'hui, même si je n'ai pas un foin. Si vous le dites et que vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas de contre-exemple. Même si ton réfrigérateur est vide, qu'il soit le midi, ton enfant demande comment on va manger. Tu dis, je ne sais pas, mais on mangera tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Mène la table seulement. On dit, maman, il n'y a rien au frigidaire. Ce n'est pas mon problème. Dieu a dit que nous ne manquons pas de nourriture. Donc, on fait un jeu. On observe les enfants de Dieu. On verra aujourd'hui s'il est menteur. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas menteur. Regardons Dieu. Vous allez rester là, une voisine va préparer. Ah, c'est l'anniversaire de mes enfants. Venez, on va manger. On va vous envoyer un gâteau. Quelqu'un va venir du village, je vous l'accompagne avec du maïs. Il y a toujours quelque chose. Dieu fait quelque chose. Il est fort. Mais attention, après avoir dit, quand on a demandé à Dieu, à Jésus, quel était le plus important des commandements, il a dit, un, aime Dieu. Deux, aime ton prochain. Dieu est le producteur de la bénédiction, mais le prochain est le distributeur de la bénédiction. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passe toujours par son prochain. Quand tu es en train de prier comme ça, ton frigidaire est vide. Dieu dit, bon, voisine là. Toi, tu es dans la maison depuis, tu n'as jamais rien fait pour personne. Il faut faire du bien à tes voisins, au moins pour entrer une bonne relation. Prépare ce midi et partage à tout le monde pour faire la fête. Il va dire, bon, ok, je prépare à tout le monde. Mais le voisin là, l'impoli qui ne dit jamais bonjour à personne, et il y en a un, hein, moins un. Il touche l'autre. Mais ton maître là, c'est en train de pourrir. Le temps va passer, tu ne pourras même plus en jouir. Au moins, donne à quelqu'un qui va te dire merci. D'accord, je vais donner à tout le monde dans la maison. Mais le gars impoli qui nous incite tout le matin, hein, lui, je ne lui donnerai pas. Moins deux. Dieu fait le tour de la maison. Tout le monde a raison de dire, moi, je lui donne rien. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Quand vous êtes en train de prier, quand vous vous rappelez que l'un de vos frères a quelque chose contre vous, arrêtez votre prière. Allez le voir, faites la paix avec lui avant de venir prier. Parce que si tu pries, Dieu dit, c'est vrai, je dois nourrir le petit là, sinon il va démontrer à son enfant que je suis menteur. Il commence à appeler tous les boutons qu'il a mis autour de toi. Tous les boutons disent, lui là, c'est un impoli. Dieu te dit, si par exemple tu fais attention à cet esprit, Dieu te dit, je t'ai dit que quand tu pries, si tu as quelque chose contre toi, va te confesser. Il va dire, va demander pardon à tes voisins, fais la paix avec eux. C'est le jour justement. Parce que quand on entend demander quelque chose à Dieu, il faut se sanctifier. Il dit, oui, mais franchement, leur demander pardon. Non. Le Saint-Esprit est en train de te pousser. Tu ne sais pas pourquoi lui te pousse. La parole a dit de le faire. Tu refuses de le faire. C'est ton problème. Tu regardes, Dieu te regarde. Et c'est peut-être que ce jour, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas fidèle à sa parole, mais parce que toi, tu n'es pas fidèle au mode opératoire. On te dit que l'ordinateur s'allume toujours quand tu en as besoin, à condition que tu aies payé ta facture d'électricité pour qu'il y ait du courant dedans. Alors, avant de dire que la machine ne marche pas,
Il faut avoir payé sa facture d'électricité. Dieu dit, sois en bon terme avec tes voisins. Autant que cela dépend de vous, soyez en bon terme avec tout le monde. Toi, tu es en mauvais terme avec tout le monde. Ce n'est pas Dieu, c'est toi le problème. Et c'est pour ça que quand on n'est pas exaucé, la foi, ce n'est pas seulement de croire que Dieu va faire des merveilles. C'est croire que tout ce que Dieu dit est vrai. Si tout ce que Dieu dit est vrai, vous devez croire autant aux promesses de Dieu qu'aux instructions de Dieu sur comment en prendre possession. Beaucoup de gens croient ou essaient de croire aux promesses de Dieu sans croire au mode opératoire de Dieu. On ne peut pas croire l'un sans l'autre. Vous croyez que Dieu va vous bénir, mais vous ne croyez pas que si vous êtes jaloux, il va vous punir. Vous croyez que Dieu va vous bénir, mais vous ne croyez pas quand il dit que c'est quelqu'un d'autre qui ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose. Pourquoi vous croyez l'un et pas l'autre? Vous le prenez pour menteur quand vous voulez, et vous le prenez pour celui qui dit la vérité, que ça vous arrange. Savoir ce qu'on veut, on ne peut pas avoir les deux dans la vie. Je ne sais pas si vous me suivez. On est toujours dans notre père aujourd'hui. Donc, vous allez voir que dans cette phrase-là, demandez à Dieu sa révélation, demandez à Dieu sa nourriture spirituelle du jour, et croyez-moi, elle est plus importante que la nourriture de l'esprit, que la nourriture de la chair. De la même manière que vous êtes soucieux de votre ventre, vous ne voulez pas que votre corps ait faim, ayez un peu pitié de votre esprit et ne laissez pas avoir faim. Parce que de la même manière qu'on dépérit, on est malade quand on ne mange pas, de la même manière votre esprit est malade quand vous ne le nourrissez pas. Si un jour votre ventre ne mange pas, votre corps le ressent immédiatement, vous êtes faible. Et si pendant 3 jours vous ne mangez pas, vous commencez à tituber. Si pendant 7 jours vous ne mangez pas, vous êtes couché. Sachez que c'est spirituellement pareil. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça ne sert à rien d'avoir un corps qui marche quand votre esprit est couché. Il vaut mieux encore avoir un corps couché et un esprit qui marche. L'idéal, c'est de faire les deux. Mais votre esprit pour manger a besoin que vous méditiez la parole jour et nuit et que vous appliquiez tout ce qui est écrit fidèlement. Et alors, vous réussirez dans toutes vos entreprises. La parole de Dieu va jusqu'à nous dire que vous allez prospérer matériellement comme prospère l'état de votre âme. Or, votre âme prospère proportionnellement au temps que vous consacrez à manger la parole de Dieu. Ce qui est logique, plus on mange, plus on est gros, ou bien. Donc Dieu dit que pour être spirituellement gros, ce qui n'est pas mauvais, l'excès dans ce domaine n'est pas mauvais, il faut manger beaucoup sur sa parole. Vous êtes tout le temps en train de jeûner sur la parole de Dieu, vous êtes surpris d'avoir du kwashiorkor spirituel. Et vous allez voir des gens, le kwashiorkor c'est quoi? Les gens ont de gros ventres, mais en fait, un médecin sait que c'est parce qu'ils sont mal portants. Vous allez voir des gens qui sont spirituellement avec de gros ventres d'onction, de miracles, d'église. Mais ce ne sont que des gros ventres de kwashiorkor. Derrière, c'est des personnes spirituellement très malades. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Remarquez qu'aujourd'hui est mis 2 fois dans la même petite phrase, c'est-à-dire aujourd'hui est au carré. Vous voyez, on récite la même chose 10 fois, fois 10, par 100, par 1000, on ne connaît même pas ce qu'il y a dedans. Vous comprenez pourquoi nous sommes malheureux spirituellement? Ce n'est pas affaire de Dieu, Dieu, Dieu. Hein. Les gens parlent de Dieu, ne connaissent pas Dieu. On juge Dieu. Oui, pourquoi? Lui aussi, il était là. Vous ne connaissez pas le gars, vous parlez de lui. Pas la peine. Bon, pourquoi Dieu met aujourd'hui 2 fois? La plupart de vos prières là sont fausses. Dieu ne nous a pas appris, Jésus ne nous a pas dit en priant, de demander à être milliardaire ou à avoir beaucoup d'argent. Il nous a dit de demander la nourriture qu'il nous faut pour aujourd'hui seulement. Et Dieu a promis qu'il vous donne chaque jour la nourriture d'aujourd'hui. Ce n'est pas la nourriture de demain. Hein. Et comme Dieu a dit, comme dans le tribunal, il dit, on ne peut retenir une parole comme vraie qu'après avoir reçu au moins 2 ou 3 témoignages. Comme au tribunal. Dans l'Ancien Testament, Jésus l'a confirmé. Donc Dieu l'a confirmé de plusieurs manières. Quand les Israélites étaient dans le désert, la manne tombait chaque matin. Au plus tard, vers midi, ça avait fondu. Personne ne pouvait en prendre puisqu'il ne peut en manger et en emmagasiner. Ceux qui ont essayé ont découvert le matin que ça avait pourri. C'est-à-dire qu'il était, dans tous les cas, même si on a envie, impossible de s'enrichir en nourriture. Et il y a beaucoup de sacrifices dans l'Ancienne Alliance où on disait, vous faites le sacrifice, vous mangez tout le même jour. Vous n'en laissez rien pour demain. Demain, Dieu pourvoira. Et chaque matin, les Israélites étaient donc obligés de se lever, d'aller dire bonjour à Dieu pour prendre la nourriture de ce jour. Si quelqu'un jour ne trouve pas le temps d'aller rencontrer Dieu, il n'a pas de manne ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme a un fantasme secret. Accumuler assez de pain aujourd'hui pour pouvoir ne pas avoir à aller tendre la main à Dieu pendant quelques temps. Vous allez remarquer que dès que Dieu vous bénit, vous vous éloignez de Dieu. Et vous ne revenez à Dieu que quand ça chauffe. Il y a des gens qui dorment à l'église matin, midi, soir, quand ils ont des problèmes. Qui trouvent la femme ou le mari qu'ils veulent. Qui trouvent l'emploi qu'ils veulent, ils n'ont plus le temps pour aller à l'église. Bon, Dieu s'en fout que vous soyez à l'église. Mais c'est quand il était dans sa vie, il n'a plus de temps pour Dieu. Vous allez voir que nous ne prions que quand ça chauffe. Nous ne venons à Dieu que quand nous n'avons plus aucune porte de secours. Nous traitons Dieu comme un pompier. Je vais vous raconter. Moi, j'aime bien illustrer les choses pour que vous compreniez ce que je dis là. Et pour que vous voyez, si à la place de Dieu, vous n'auriez pas fait comme lui. Vous avez un enfant. Vous décidez de lui donner 7000 francs, bon, oui, 7000 francs d'argent de poche par semaine, à raison de 1000 francs par jour. Et vous découvrez que quand il prend 1000 francs, non, quand il prend 7000, par exemple, dimanche soir, il sort de la maison, ne le voit plus, il vagabonde de copine en copine, de copain en copain, jusqu'au dimanche soir prochain. C'est dimanche soir prochain qu'il vient à 17h, il baratine sa maman, il vous baratine vous-même, il dit, pas ça va, il ne faut pas te fâcher, bon, j'étais dans une vieille là, et aujourd'hui j'ai fait répétition, il raconte des niaiseries, mais pendant toute la semaine, il a disparu. Il fait ça une fois, vous fâchez, vous baratine, il demande pardon, il demande de le pardonner, d'accord, vous lui donnez encore 7000.
pour espérer que c'est pas que c'est l'argent. Vous lui donnez encore 7 000, il disparaît encore ce dimanche, c'est encore l'autre dimanche qu'il revient. Si vous n'êtes pas bête, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de lui donner 1 000 francs dimanche soir pour voir. Et surprise, lundi soir, il est déjà là pour penser de mardi. Vous donnez 1 000 francs mardi, et surprise, il est là encore mardi soir pour penser de mercredi. Et, ah, je vais voir si ça marche. Vous lui donnez 500 le matin, ce n'est plus le soir qui revient, hein? À midi, il est là pour penser du soir pour faire encore 500. Vous allez vous dire de mieux en mieux. Donc, c'est ça la formule. Ce petit-là, si je pourrais même lui donner l'argent par heure, au moins je serais sûr que mon fils viendra me voir toutes les heures et que je pourrais avoir l'œil sur lui. Parce que plus je lui donne de l'argent, plus il a une marge de manœuvre pour tenir loin de moi, plus il s'éloigne, plus il fait de bêtises avant de revenir. Si je l'aime et que je suis un père responsable, je dois réduire la quantité d'argent de poche que je lui donne. N'est-ce pas? C'est pareil dans nos vies. La plupart des gens, dès que Dieu les bénit, ils s'éloignent complètement de Dieu. Ils oublient Dieu. Ils ne reviennent à lui que quand ils n'ont plus rien. Si vous êtes Dieu et que vous les aimez, vous leur donnerez assez pour rester longtemps loin. Dieu dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on en donnera de plus grandes. Dieu te donne 7 000 francs, tu viens le voir toutes les heures. Il te donne 14 000 francs, au lieu de venir toutes les 2 semaines, tu viens toutes les minutes. Il te donne 1 milliard, tu es avec lui tout le temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il t'en donnera de plus en plus. Parce que tout système multiplie ce qu'il récompense. Si beaucoup de gens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne pensent à Dieu que quand ils ont des problèmes. Comme Dieu, quel père ne veut pas voir ses enfants? Donc, si ton papa fait que c'est pas quand tu as mal au pied, que tu viens à la maison, s'il a un bouton, ou si c'est un vieux féticheur qui a du cacachou qui peut appuyer pour que tu aies mal au pied, il appuiera régulièrement pour que tu aies mal au pied. Ou en tout cas, si c'est que tu as un ennemi qui va te donner des maux de pied, qu'il peut guérir, il le laissera, même s'il peut le bloquer, te donner les maux de pied, afin que tu viennes à la maison, au moins pour te faire soigner, et qu'il puisse voir à quoi tu ressembles. C'est pour ça que les gens qui aiment Dieu, qui vivent avec Dieu, qui s'investissent avec Dieu, qui consacrent leurs moyens à Dieu, et dont les moyens ne sont pas une raison de s'éloigner à Dieu ou de Dieu, sont de plus en plus bénis. C'est une question de maturité. Il y a des gens qui gagnent par exemple 50 000. Le jour où il trouve 100 000, c'est lui qui est le président de son quartier. Il fait le tour de tous les bars climatisés. Il engrosse toutes les filles du quartier. Il achète une bouteille de whisky avec l'argent qu'il a gagné. Bref, Dieu dit, mais si ce petit-là a gagné 100 000 francs, il a fait tant de catastrophes que ça vendredi soir. Si je lui donne 1 million, le quartier est foutu. Ou bien, si vous achetez un vélo à votre enfant, et il commence à prendre toutes les vendeuses de pain du quartier pour les balader la nuit. Vous allez lui acheter une voiture? Hein? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu Dieu? Parce que souvent, on juge Dieu. Personne n'essaie de comprendre Dieu. Aimer quelqu'un, c'est aussi essayer de le comprendre. Est-ce que vous essayez de comprendre Dieu? Je veux que vous compreniez un peu Dieu. Vous comprenez pourquoi tout en vous aimant, tout en ayant largement plus qu'il ne vous en faut, Dieu ne vous donne pas tout. Parce que vous voulez tout avoir pour pouvoir aller loin et ne plus vous rappeler de lui. Donc Dieu ne vous donnera beaucoup que quand il sait que vous êtes devenu tellement amoureux de lui, que même en ayant beaucoup, vous resterez. On a parlé de prostituées tout à l'heure. Si tu sais que ta femme est une prostituée, tu ne donnes pas beaucoup d'argent, tu ne donnes pas 1 milliard, elle va partir. Si tu sais qu'elle est une prostituée, mais pour une raison ou une autre, tu ne veux pas te séparer de la prostituée, au moins tu ne la tiens pas les moyens. Mais quand tu sais que c'est ta femme, elle t'aime, elle est fidèle, tu lui fais confiance, tu peux te permettre certaines largesses. Parce que tu sais qu'elle n'est pas tributaire de l'argent. Tu peux même lui confier ton argent à gérer pour toi. Parce que tu sais qu'elle n'est pas là pour de l'argent. Quand vous priez, vous dites, Seigneur, rends-moi riche. Vous espérez que Dieu va vous répondre en vous envoyant beaucoup d'argent. Dieu n'a jamais enrichi quelqu'un en un jour. Il dit même que si quelqu'un s'enrichit trop brutalement, il deviendra pauvre tout aussi brutalement. Dieu bâtit. Il dit, si vous semez peu, vous récolterez peu. Vous semez beaucoup, vous récolterez beaucoup. Avec Dieu, on construit les choses. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le transforme d'abord. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qu'il n'a pas transformé. Abraham a été transformé, éprouvé. Il s'est déplacé. On lui a changé de nom. Sarah a changé de nom. Elle s'est déplacée. Jacob a changé de nom. Il s'est déplacé. Il est passé dans les épreuves. David, Dieu l'a choisi. Le parcours du combattant a commencé pour le préparer à prendre le trône. Moïse, Dieu l'a choisi. L'a envoyé dans le désert pour le préparer avant de revenir sortir le peuple. Et regardez bien, l'une des manières préférées de Dieu pour conduire les gens, c'est les brebis. Moïse, on l'appelle, va t'occuper des brebis de Jéthro. Abraham, des brebis. Moïse, des brebis. Jacob, des brebis. Jésus, le bon berger. David, des brebis. La discipline, la fidélité, la patience, l'amour, le zèle. Il faut pour veiller sur chaque brebis. C'est une école pour pouvoir gérer des hommes. Des gens qui n'ont jamais dirigé une association dirigent des pays. Ça se passe comme ça. Quelqu'un qui a géré des brebis ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui n'a jamais rien géré et qui gère des hommes. Tous les grands hommes de Dieu, Dieu leur a d'abord confié un troupeau. Donc, quand on arrive à cette partie de la prière, regardez, c'est le moment de faire l'audit de ses ambitions, l'audit de ses requêtes à Dieu, l'audit de son utilisation des moyens, l'audit de sa proximité avec Dieu. Et on continue. Vous voyez que le Notre Père est un modèle de discussion avec Dieu. Si vous voulez commencer à discuter avec Dieu selon Notre Père, une nuit ne vous suffit pas. Parce qu'au fur et à mesure que vous lui parlez, il vous répond. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire quelque chose à Dieu, c'est pas que vous entendez une voix. Et puis quelque chose dit, oui, mais tu te rappelles que tel. Mais tu dis, mais Seigneur, tu ne m'exauces jamais. Et comme par hasard, alors l'autre chose c'est quoi?
Le Saint-Esprit vous parle. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'écrivain de la parole de Dieu. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture de la Bible. Comment je vais vous dire? On ne peut pas parler à quelqu'un une langue qui ne comprend pas. Je ne sais pas si vous me suivez. On ne peut pas parler à quelqu'un une langue qui ne comprend pas. Je donne un exemple. J'étais une fois au restaurant avec mon épouse, il y a peut-être 2 ou 3 mois. Vous étiez en train de chercher du personnel pour le bar en haut. Parce que, et même jusqu'à aujourd'hui, j'estime qu'on n'a pas du bon personnel au bar, on n'a pas du bon personnel dans certaines choses. Nous avons repéré dans un grand restaurant de la place des gens qui nous paraissaient professionnels, excellents pour faire le travail. Moi, j'ai été recruteur. Mes parents sont aujourd'hui toujours les leaders dans le recrutement au Bénin. Donc, j'ai des réflexes techniques du monde de recruteur. Je suis un chasseur de tête. En mangeant, j'ai appelé ce serviteur-là. Je lui ai demandé son nom, combien il gagne. Je lui ai dit combien il veut gagner. Si je dois le débaucher, il m'a dit. J'étais prêt à le débaucher. Et on avait décidé de le débaucher. On était parti dans le restaurant pour lui donner rendez-vous, lui dire, viens tel jour, on te paye tel salaire, on va te débaucher. Il nous a apporté quelque chose, il devait aller chercher, je crois, de l'eau ou un jus de fruits. Subitement, le truc me dit, tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Tu ne désireras pas ce qui appartient à un autre. Avant que j'aie réagi, le truc me dit, ce que tu fais à ton prochain, on te le fera. On te servira avec la même mesure que tu utilises pour servir les autres. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Tout ça veut dire en quelques mots, si tu débauches ce gars-là, tu as volé le collaborateur de quelqu'un. On va forcément te voler celui-là ou quelqu'un de plus précieux. Si quelqu'un veut débaucher tes collaborateurs, veut le pousser à manoter, je ne pourrai pas l'en empêcher. Parce que Satan invoquera que tu as fait la même chose, je dois te laisser faire la même chose. J'ai dit, chérie, on ne le prend plus. Elle dit, comment ça? J'ai dit, on ne le prend plus. Elle dit, on en a besoin. J'ai dit, bon, je t'explique. Le Saint-Esprit vient de me dire que débaucher ce gars-là par rapport à tel principe biblique, c'est un péché. Et merde, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Bon, on laisse tomber. Ce qui est bon, c'est que nous, on s'est entendu. La Bible, c'est plus que la loi chez nous. C'est quand on cite la Bible, c'est point final. C'est Dieu qui a parlé. Et c'est vrai. Mais si je ne connaissais pas la Bible, moi je ne suis pas pasteur, je ne connais pas les références des versets. Ce n'est pas ça mon problème, ce n'est pas mon travail. Moi, chacun son travail. Mais si je ne savais pas que, et parce que je n'ai pas déjà lu dans la Bible ça, par quel moyen Dieu allait me parler? Parce que là, Dieu m'a rappelé quelque chose que je connaissais. Quand on parle là, tous les mots que j'utilise, c'est que je me rappelle des mots que j'ai appris, de leur signification, et je les réalise quand le contexte se présente pour passer un message. Si vous et moi n'avions pas dans notre vie avant aujourd'hui appris ces mots, comment pourrions-nous les utiliser pour nous comprendre ce soir? Si moi je n'ai appris qu'anglais, qu'aucun d'entre vous n'a appris anglais, comment les mots anglais peuvent me permettre de vous faire comprendre quelque chose si vous n'avez jamais appris les mots anglais que je connais? Si vous ne connaissez pas les mots que le Saint-Esprit utilise, les phrases du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a écrit, avec quelle langue il va vous parler? Donc on ne peut pas entendre Dieu quand on n'a pas pris la peine d'apprendre la langue de Dieu. Et la langue de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que plus vous allez méditer la parole de Dieu, plus vous allez grandir spirituellement. Plus vous allez accroître votre capacité à connaître Dieu et à entendre Dieu. Je sais pas si vous me suivez. Il fait tard, je vais m'en arrêter là, je vais prendre peut-être 1 ou 2 questions. Nous allons continuer demain. Là, j'ai essayé de planter un peu le décor de la foi. Demain, je vous montrerai dans le jardin d'Éden pour vous expliquer d'où vient le problème de la foi. En fait, quand on dit qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, le fruit défendu, c'est ça. La Bible dit, relisez la Genèse. Qu'est-ce que la Bible dit du fruit défendu? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Comment on connaît le bien et le mal en réfléchissant? La Bible dit qu'ils ont mangé l'arbre ou le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que leurs intelligences se sont ouvertes. Et Paul dit plus loin dans le Nouveau Testament qu'il veut briser tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé tout à l'heure des enfants. Quand Dieu parle, quand un père parle à un enfant, quand un maître ou une maîtresse parle à un enfant, l'enfant qui a le cœur, comme Dieu dit qu'il faut avoir pour aller au ciel, ne discute pas, ne réfléchit pas, il ne veut même pas comprendre. Vous allez voir l'enfant pour dire, non, ne fais pas ça. Mon papa a dit que ce n'est pas comme ça. Mon papa a dit que c'est bleu, c'est tout, c'est bleu. Je ne suis pas d'accord, maîtresse. Moi, mon papa a dit que c'est bleu. L'enfant ne veut pas analyser pour voir si c'est le papa qui a raison, si c'est la maman qui a raison, si son papa a dit c'est que c'est vrai. L'enfant ne veut pas voir si son papa a dit du bien ou du mal. Il ne veut pas connaître où est le bien, où est le mal. Il ne veut pas ouvrir son intelligence. Il dit, sur ça là, moi je suis bête. Dieu a dit que c'est mauvais, c'est mauvais. Satan va dire, non, regarde, c'est bien quand même, ce n'est pas mauvais. Réfléchis, utilise ton intelligence pour voir que c'est Dieu qui te manipule. Il ne veut pas que tu sois aussi grand que lui. Je ne veux pas connaître si c'est bien ou si c'est mal. Si Dieu a dit que c'est mal, c'est mal. Ce qui nous a fait déchoir, ce qui a fait déchoir Adam et Ève, ce qui nous fait déchoir jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle l'intelligence, la réflexion, la rationalité qui vient briser la foi. La foi dans le jardin d'Éden aurait été de dire, quoi que tu puisses dire, cher ami serpent, je m'en fous de savoir si ce que tu dis est vrai ou faux. Ça peut m'être vrai, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu a dit de ne pas manger. Jusqu'à ce qu'il vienne me dire de manger, je ne mangerai pas. Et comme les enfants le font, D'accord, c'est pas grave, j'attends que papa vienne et je lui dirai que tu as dit qu'il faut manger. S'il me donne la permission de manger, je mangerai. Sinon, mon papa a dit qu'on ne mange pas. C'est ça la foi. C'est le principe. Qui veut que parce qu'on connaît Dieu, parce qu'on l'aime, parce qu'on le croit, parce qu'on le respecte, quel que soit ce qui se présente comme scénario de Satan, quel que soit le caractère logique, cohérent, impressionnant, convaincant, certain, scientifique de ce que Satan vous présente, pour vous demander d'ouvrir votre intelligence pour voir si ce qu'il vous présente n'est pas plus vrai que ce que Dieu a dit, comme le dit Paul, vous ne devez jamais vous séparer de votre ceinture de vérité. Une ceinture là, quand on enlève la ceinture, le pantalon tombe. La Bible dit que quand ils ont mangé du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ils sont devenus nus. Quand vous perdez la vérité, vous êtes nus. Ils ont, parce qu'ils ont voulu analyser la parole du diable, désobéi à Dieu. Parce que le diable, comme je dis, il a des millénaires. Il est plus vieux que vous. Il existe presque depuis la création. Il est expérimenté. Il a vu des milliards d'hommes avant vous. Il en verra après vous. Il a été le numéro 2 au ciel. C'était le premier ministre de Dieu. Il connaît parfaitement Dieu. C'est lui qui loue Dieu. Celui qui loue Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Et il était tellement proche de Dieu qu'il a même essayé de faire un coup d'état pour Dieu tellement il se sentait Dieu. Celui-là, qui a passé des milliards d'années à accuser les hommes, qui vous êtes pour discuter avec lui et par votre raisonnement le battre? Vous aussi. Vous ne pouvez pas discuter avec ça. C'est-à-dire que quand vous commencez à prier, il n'y a pas de raisonnement que vous puissiez faire dans votre tête pour vaincre le doute. Ça, c'est un grand secret que je vous livre là. Quand vous priez pour être guéri, vous priez pour avoir de l'argent, vous priez pour avoir de l'emploi, vous priez pour n'importe quoi, dès que vous commencez à réfléchir pour voir si votre prière peut s'exaucer ou bien comment ça va se passer, vous êtes déjà foutu. Parce que là, vous avez ouvert la discussion, non pas avec votre esprit, mais entre votre esprit et Satan. Celui qui vous envoie les idées de doute, ce n'est pas vous, ça n'existe pas en vous. C'est Satan qui est en train de parler dans votre cœur. Moi, quand je prie et je demande quelque chose à Dieu, j'oublie immédiatement. Parce que dès que vous concentrez sur la chose, mais comment ça va se faire? Mais comment il va faire? Mais c'est impossible, pas où il va commencer. Mais il y a quand même telle chose. C'est que vous êtes déjà en train de vous analyser sans vous en rendre compte dans la discussion avec Satan. Vous avez demandé quelque chose à Dieu, il vous faut une seule chose, vous assurer que Dieu l'a promis. Si vous voulez demander quelque chose à Dieu, assurez-vous que Dieu a écrit quelque part dans sa propre parole qu'il le donne. Parce que la foi, ce n'est pas de croire tout ce qu'on veut. La foi, ce n'est pas l'optimisme. La foi, ce n'est pas l'expérience. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dit autrement, la foi n'est la foi qu'appliquée à ce que Dieu a dit. Avoir la foi, c'est croire mordicus, sans en douter, sans y réfléchir, sans l'analyser, croire bêtement comme un enfant. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir le cœur comme un enfant. Ce que Dieu a écrit, parce qu'il n'a jamais menti. Que vous compreniez comment il va faire ou pas, ce n'est pas votre problème. La seule chose dont il faut être sûr, c'est que c'est lui qui l'a écrit. Une fois encore, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il a écrit? Il y a des droits que vous avez. Il y a des choses que Dieu a déclarées par avance sur votre vie. Vous ne le savez pas. À quoi vous allez accrocher votre foi? Il y a des choses que Dieu a interdit que vous faites. Vous ne le savez pas. À quoi vous allez accrocher votre foi pour faire le contraire? Vous ne pouvez pas discuter avec Dieu sans connaître sa parole. Vous ne pouvez pas croire en Dieu sans savoir ce qu'il a promis. Et il y a beaucoup de gens qui prient et qui ne seront jamais exaucés. Jésus dit par exemple quelque part, vous priez, vous ne recevez pas d'exaucement parce que vous priez mal. Vous priez pour assouvir vos passions malsaines. C'est-à-dire que Dieu vous prévient que si quelqu'un prie dans le genre, ma copine a une belle voiture, moi-même mon mari va acheter cette voiture, Jésus a prévenu, il ne vous exaucera pas. Donc ça ne sert à rien d'appliquer sa foi à des prières comme ça. Seigneur, il faut le punir, il faut le prier, il faut le tuer. Ce n'est pas la peine de prier comme ça. Dieu a dit que lui ne tue personne. Il n'est pas venu pour perdre le troupeau, mais pour que le troupeau ait la vie en abondance. Seigneur, tu n'as pas vu? C'est un bandit, c'est un méchant. Que nul ne juge son prochain. À Dieu seul la justice. Donc qui toi tu es pour le juger? Ne regardez pas les pailles qui sont dans les yeux des autres. Regardez la poutre dans vos yeux. Donc quand on connaît Dieu, on voit certains prions pour elle dire, mon frère, il ne faut pas perdre du temps. Là, tu perds du temps. Il faut laisser ça là. Viens, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Ça là, de ce côté-là, il va te le donner. De ce côté, il ne va pas te donner. Dieu est rationnel. Quand vous prenez n'importe quel sujet, vous pouvez trouver dans la Bible, en le lisant, un genre de checklist. Par exemple, je vois des gens qui sont, par exemple, hyper tendus. Ils vont voir un pasteur ou un prêtre ou un exorciste pour les guérir. Ils perdent son temps dans certaines conditions. Parce que ce qui est écrit là, personne, même Dieu, ne peut le remettre en cause. Dieu dit que rien ne vous effraie, que rien ne vous trouble. Soyez là à la colère. Là, parler, prompt à écouter, pardonner 777 fois. Si vous avez quelque chose contre vos frères, allez le voir, dites-le-lui. Que la nuit ne tombe jamais sur votre colère. Il y a une certaine nombre de recommandations qui ont pour vocation de garder votre cœur en joie. Les gens qui ont l'hypertension là sont tous des gens qui violent les lois de Dieu sur la vie sociale. C'est des gens très orgueilleux, des gens très belliqueux, des gens qui ne pardonnent jamais, des gens qui sont vindicatifs, des gens qui sont rancuniers, des gens qui s'énervent beaucoup, des gens qui crient beaucoup, regardez bien, il n'y a pas de contre-exemple. Moi, je vois des gens venir dans mon bureau, ils disent, ah, j'ai les pertes, je dis, c'est sûr que tu t'énerves beaucoup. Il dit, comment tu sais? Je lui dis, mais comment tu sais? C'est écrit. Donc, quand quelqu'un est comme ça, ça ne sert à rien d'aller fatiguer un pasteur en lui imposer les mains. Dieu a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dieu a dit de ne pas m'énerver, je m'énerve. Par la foi, si je sais que Dieu dit vrai, il ne peut pas m'énerver, je m'énerve pas. Il dit de ne pas juger, je ne juge pas. Il dit d'être là à parler, je suis là à parler. Il dit de pardonner, je pardonne. C'est-à-dire, dès que vous commencez à appliquer bêtement ce qu'il a dit, votre maladie disparaît naturellement sans aucun médicament. Le médecin va dire, mais comment tu as fait? Parce que les médecins traitent les conséquences de la maladie. Ils traitent les fruits. Tu prends un arbre là et puis chaque fois que ça pousse des fruits, tu coupes les fruits. Ce n'est pas parce que je coupe toutes les mangues dès qu'elles commencent à pousser sur un arbre que j'empêche le manguier d'être un manguier. Ou bien, pendant combien d'années je vais couper chaque bourgeon qui commence? La médecine coupe les fruits de vos péchés. Mais il ne coupe pas le péché. En obéissant à Dieu, vous tuez vos problèmes à la base. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais imposer les mains aux gens. Mais l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout ça. Vous êtes pauvre, allez voir ce que Dieu dit de la pauvreté. Et obéissez-lui. Votre couple se porte mal. Allez voir ce que Dieu dit de la vie en couple. Obéissez à Dieu. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Et donc demain, nous allons aller plus loin de ce point de vue. Nous allons voir dans des cas pratiques, sur différents domaines, l'emploi, les affaires, le couple et le consort. Je vais vous donner des exemples de raisons pour lesquelles nous avons des problèmes et de comment appliquer concrètement notre foi. Parce qu'on ne peut pas parler de foi pour dire oui, les gens de notre époque, les gens de notre période. Ah, si vous n'avez pas de foi, il est impossible de plaire à Dieu. Considérez que la foi, c'est comme vos bras spirituellement. Si vous n'avez pas de foi, vous allez voir la bénédiction comme ça, vous êtes comme un manchot. Et je vais vous donner des exemples demain, pour vous montrer concrètement, pas des exemples terre à terre. Comment sans la foi, il est techniquement impossible d'avoir quoi que ce soit. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre les choses de son point de vue. Parce que quand on parle de foi, les gens font comme si, bon, c'est une question de confort, Dieu a dit de croire. Non, c'est logique, Dieu n'est pas bête. Moi, je suis un mathématicien et un physicien à la base. Et j'étais en plus très fort en philosophie. Donc, quand moi, on m'a parlé de Jésus, j'ai dit, si votre Jésus, là, c'est un idiot, on ne peut pas réfléchir, ça ne m'intéresse pas. Oui, demandez, elle n'est pas là. C'est Emile qui m'a parlé de Jésus la première fois. Je lui ai dit, elle m'a fait venir, pasteur, mais il me paraît, c'est après, ils m'ont dit qu'avant de venir, là, ils priaient des heures avant d'arriver parce qu'ils ont dit, les petits, là, mais il y a déjà des questions. Si vous n'êtes pas bien amis, vous ne pas venir. Mais je leur posais des questions très terre à terre parce que je m'étais préparé. Si le Dieu dont on parle là est un Dieu idiot, ce n'est pas la peine. Mais j'ai découvert que Dieu, c'est la science. Lisez le livre des Proverbes, il y a là, ça s'appelle Joyaux de sagesse. Lisez la puissance, la richesse. Mais nous sommes ridicules au quotidien en passant à côté de Dieu. Tout ce qui nous arrive là est écrit. Pourquoi ça nous arrive, c'est écrit? Comment en sortir, c'est écrit? D'où ça vient, c'est écrit? Où ça va, c'est écrit? Et le monde s'agite. Parce que nous avons des yeux pour voir, nous ne voyons pas. Des oreilles pour entendre, nous n'entendons pas. Un cœur pour comprendre, nous ne comprenons pas. De peur de comprendre, de lui obéir pour être béni. Et c'est pour ça que même si c'est intuitivement qu'ils le perçoivent, quand on veut dire à quelqu'un de sortir de la pauvreté, de sortir de l'échec, qu'est-ce qu'on dit en fond? Des questions? Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre la foi en Jésus et la foi en Dieu?
La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus? C'est ça la vraie question en réalité. Aucune. Bon, alors non. Je ne dirais pas qu'il n'y a aucune différence. Mais les trois personnes que sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont une seule personne. Ce n'est pas trois personnes qui forment un trio. C'est une personne. Il y a plusieurs manières d'aider les gens à le comprendre, mais je dirais tout simplement celui-ci. La question c'est, est-ce que Edgar Guidibi, c'est le directeur général de Global, c'est le père de Audrey, c'est le mari d'Edgar, c'est le président du club Jésus pour réussir, c'est le conseiller de Yahi Boni, ou bien c'est le serviteur de Jésus? Qui est-il? Ça fait au moins 5-6 personnes, mais qui ne sont qu'une. Et c'est vrai que Edgar, le père d'Audrey, si vous me voyez, ce n'est pas du tout Edgar, le directeur général de Global. Edgar, le fils de Dieu qui parle à Dieu, ce n'est pas Edgar, le fils de Dieu qui est en train d'enseigner. Edgar, le conseiller de Yahi Boni, ce n'est pas du tout Edgar, le mari de Hermione, mais c'est la même personne qui se révèle sous différentes facettes, l'une étant indissociable de l'autre, mais le tout formant un. Ou bien, oui, je vous écoute, si c'est pas vrai, il faut me dire, c'est vrai ou c'est faux. Mais Jésus vous a dit qu'il est Dieu, et Jésus est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les gens disent à Jésus, mais comment on va faire pour voir le Père? Il dit, mais donc depuis que vous êtes avec moi, là, vous ne m'avez pas encore vu. C'est comme si les gens viennent voir Papa Audrey à la maison avec sa fille en train de jouer dans le sable ou la piscine pour dire à Papa Audrey, s'il te plaît, d'ailleurs je vois des gens par exemple ici pour me dire, donc c'est Edgar peut-être le formateur au club, à Monsieur Guidibi, est-ce que je peux prendre rendez-vous à vous pour l'immobilier? Donc ils sont en train de me dire, Edgar Guidibi, le formateur, est-ce qu'on peut rencontrer Edgar Guidibi, le DG? Je dis souvent, mais si pendant que tu m'as ici, tu n'en profites pas, tu crois que moi je vais avoir le temps au bureau? Profite-en. Donc si tu me vois Papa Audrey à la piscine, si tu n'es pas ça, tu vas dire, je vais prendre rendez-vous avec lui pour rencontrer Edgar Guidibi, le directeur général. Mais celui qui est sage rentre dans la piscine avec moi. Il parle avec Papa Audrey en sachant que celui qui a vu Papa Audrey a déjà vu le directeur général de Global. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Celui qui a mis les pieds dans la mer à Ouida, a-t-il mis aussi les pieds dans la mer à Grand Popo? Est-ce qu'on peut être, on peut dissocier la plage de Grand Popo, la plage de Ouida et la plage du PLM alors que c'est la même mer? On est d'accord? C'est la même mer, non? Si tu as mis les pieds à la plage de Grand Popo, tu as mis les pieds dans la mer. Mais ça ne veut pas dire que la plage de Grand Popo est au même endroit que la plage de Cotonou. L'eau en état gazeux n'est pas l'eau en glaçon, n'est pas l'eau en état liquide. L'eau en état liquide peut dire au glaçon, je t'envie, je serai bientôt glaçon. Mais nous savons très bien que l'eau glaçon et l'eau gazeuse et l'eau liquide sont les mêmes, tout en étant dans des états différents. À la différence que Dieu est omniprésent. Vous avez pour problème que vous transposez vos limites humaines sur Dieu. C'est comme si un enfant dit, étant donné que je ne peux pas, mon papa me donne 1000 francs d'argent de poche par mois. Donc, à force d'avoir 1000 francs d'argent de poche par mois, il dit, on ne peut pas avoir plus de 1000 francs par mois. Donc, tout projet de 1 million que tu me présentes, c'est du rêve. Mais il oublie que la limite de 1000 francs, c'est la limite pour lui, l'enfant, ce n'est pas la limite pour le père. Parce que Dieu t'a limité et t'a rendu non omniprésent, tu en viens à croire que tout est non omniprésent. Alors qu'il t'a déjà soufflé que lui, il est omniprésent. Ce que tu dis, c'est comment il fait pour être omniprésent. Celui qui est omniprésent peut être en Jésus, au ciel et dans le Saint-Esprit simultanément. C'est ça que ça veut dire l'omniprésence. Je donne un exemple.
Je vais toujours avec l'histoire des différentes fonctions. Je peux être, par exemple, papa Audrey avec ma fille. J'ai envie de donner, par exemple, la société en cadeau à ma fille. Ou de prendre, par exemple, tous les bénéfices de la société pour le donner à ma fille. Mais pendant que j'y pense, le Edgar, directeur général de Global, me dit, mais c'est pas sérieux. Une société, c'est d'accord, même si elle t'appartient, ça appartient en même temps à tous les employés. Comme on dit, c'est un bien social. La société n'appartient pas qu'à toi. Tu ne peux pas jouer avec la vie de tous tes employés comme ça, en les confiant à André qui a 10 ans. Donne-lui de l'argent si tu veux. Permets-lui de venir jouer dans ton fauteuil ici comme Paul de temps en temps si tu veux. Mais tu ne peux quand même pas confier toute cette vie-là à André. Qu'est-ce qui se passe là? Le Edgar, papa André, a eu une envie. Le Edgar, directeur général de Global, ou le Edgar, connaissant le droit, vient lui rappeler que mon petit, écoute, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Maintenant, au-delà de ça, ce n'est pas parce que j'essaie d'expliquer en terre à terre, la parole de Dieu, pour vous aider à la comprendre, qu'il faut tomber dans le piège de penser que vous avez le niveau de comprendre tout ce qui concerne Dieu. Ni moi, ni vous. Parce que Dieu, qui a tout écrit, nous dit, à Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées. Oui, c'est ça qui est merveilleux quand on connaît la parole de Dieu. Chaque problème, là, il a déjà anticipé en expliquant. Et quand j'ai lu ça, vous allez le lire dans le Journal des Sagesses, ça explique que, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas vocation. Par exemple, vous allez voir dans l'Apocalypse, il y a des choses dites, ces choses-là ont été écrites, scellées, jusqu'au temps convenu. À ce moment-là, on cherchera qui peut ouvrir le sceau. Dieu étant Dieu, ayant précédé toute chose, et étant là encore après toute chose, Dieu qui a tout organisé, y compris qui vous êtes, ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas, peut parfois, il a déjà dit d'ailleurs que dans les derniers temps, comme aujourd'hui, l'intelligence ou la capacité de comprendre les choses va s'accroître. C'est ce qui est en train de nous arriver. Ce que nous sommes en train de faire là, il y a quelques centaines d'années, des gens géants de la foi ne comprenaient pas, n'avaient pas le cas des révélations que nous avons aujourd'hui. Évidemment, nous avons profité de toutes les révélations. Mais le Saint-Esprit avait annoncé que dans les derniers temps, il accroîtrait le rythme des révélations, la compréhension des choses qu'on ne comprenait pas avant. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il a dit à Jean de sceller les choses jusqu'au temps où il va donner aux gens l'intelligence de le comprendre. Non, de toute évidence, Dieu étant infiniment plus grand que nous, dans sa sagesse, il ne peut pas non plus permettre que tu comprennes tout ce qui a rapport à lui. Sinon, en quoi il est Dieu, toi, citoyen? Donc, je veux dire par là que Dieu est sage. Dieu est parfait. Rien n'est anormal avec Dieu, puisqu'il est la norme. Il y a des fois, il va nous permettre d'avoir la révélation, de comprendre un peu comment ça marche, pour affermir notre foi. Mais il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire que tout ce que nous n'avons pas compris n'est pas vrai. Il est bien de voir que certaines choses qu'il nous a affirmées, nous les comprenons pour voir qu'en fait, il n'est pas bête, mais il n'est pas nécessaire de comprendre tout ce qu'il nous dit pour le croire. C'est parce que vous nous voyez. Quand ton papa te donne des conseils, une fois tu désobéis, ça te coûte cher. Deux fois tu désobéis, ça te coûte cher. Le troisième conseil qu'il te donne, tu n'as pas besoin de le comprendre pour lui obéir. Tu as gardé la leçon que quand on désobéit à papa, ça coûte cher. Ça suffit pour lui obéir, quitte à ce qu'après il décide d'expliquer. Tu vois, là, heureusement qu'il m'a obéi. J'ai refusé ça pour telle et telle chose. Parce que c'est Dieu qui, souverainement, décide de donner la faculté de le comprendre. Il peut la donner ou ne pas la donner. Et j'avoue que moi, en tout cas pour donner ma vie à Jésus, j'ai été très exigeant pour comprendre. Dieu donne à chacun ce qu'il veut et puis c'est lui qui m'a fait comme je suis. Donc, Dieu connaît chacun de nous. Mais il ne faut pas non plus tomber, ni moi, ni vous, dans le piège de dire tout ce que je n'ai pas compris, je ne l'accepte pas. Mais ce que j'ai compris a suffi pour montrer que ce que je n'ai pas compris là, c'est parce qu'il n'a pas encore voulu que je le comprenne. Mais quelqu'un va le révéler, je vais baisser la tête tellement ce sera clair et terrible. Parce que s'il ne m'avait pas donné cette révélation, je n'allais pas croire qu'il est logique, qu'il est puissant. Il m'en a révélé assez pour que je fasse confiance à sa sagesse, à son intelligence. Mais rien en tant que Dieu ne l'oblige à me révéler tout ce qu'il veut. La preuve, tous les jours, je découvre des choses. Et c'est ça qui fait notre marche avec Dieu.
Il y a un passage de la Bible qui parle d'adoration de Dieu en chair et en esprit. Bon, moi, j'ai compris que, d'après votre explication, pourquoi Jésus s'intéresse d'appeler Dieu à son secours. Bon,
des fois, je me dis, Edgar, sois sérieux, calme-toi. Dieu dit que tu dois être lent à la colère. C'est pas le moment de parler. Prie plutôt. Je suis en train de parler à moi-même ou pas? Bon, alors, pourquoi vous voulez raisonner Dieu comme avec une calculatrice?
Bon, sur la question de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, moi je crois plutôt qu'en sondant un peu les Écritures, on a l'impression effectivement que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne par le lien qu'il y a entre eux. Sinon, vous voyez que dès l'entrée dans le ministère de Jésus, après son baptême, l'Esprit, une voix s'est fait entendre du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et Jésus lui-même, ailleurs, dira « Qui m'a vu ?» a vu mon Père. Et ailleurs, il y a beaucoup de passages. Vers la fin, vous verrez que parlant du Saint-Esprit, il dit « Je partirai et je vous enverrai Saint-Esprit. » Et d'autres passages dans le livre des Actes des Apôtres, ainsi de suite, nous démontrent qu'en réalité, je crois que Dieu, le Père, le Fils sont la même personne par le lien qu'il y a entre eux.
La même personne ne peut pas avoir de lien. Pour qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait trois personnes. Bref, ce n'est pas le but du séminaire. On fera un séminaire là-dessus. Mais notez que si vous considérez que Dieu, c'est trois personnes, il n'y a plus de Dieu. Réfléchissez à ça, on y reviendra. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est une personne. Ce n'est pas trois personnes. La preuve, au-delà des trois personnes, parce que vous l'oubliez, aujourd'hui, on a Jésus le Sauveur, on a le Saint-Esprit qui est un peu le gouverneur, le coordonnateur, le conseiller, le coach, on a Dieu le Père. Mais vous oubliez qu'on a Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit, on a Dieu qui guérit, on a Dieu qui bénit, on a Dieu qui sauve, on a Dieu de justice. Ça fait sans Dieu? Ça fait sans Dieu. Le Dieu de paix, c'est différent du Dieu de justice, c'est différent du Dieu qui guérit, c'est différent du Dieu qui pourvoit. On en reparlera, c'est pas le but du séminaire.
Sincèrement, je vous remercie pour ce que vous faites. Mais je veux juste rappeler que Dieu, bon, il y a des choses qu'on ne cherche pas à expliquer avec Dieu. C'est sa nature. Et le fait d'être Dieu, Dieu a donné cette licence à Jésus. C'est à Jésus seul qu'il l'a donné. Même avant même que Jésus ne vienne, il a déjà dit qu'il est Dieu.
Excusez-moi beaucoup. Moi, je crois que Dieu est une seule personne, mais qui a trois responsabilités. La responsabilité du Père, la responsabilité du Fils et la responsabilité du Saint-Esprit. Bon, selon ce que vous avez expliqué, à travers vos différentes responsabilités, en tant que papa de Audrey, mari de temps et DG de Chondra, je crois que vous êtes une seule personne, mais vous avez différentes responsabilités. Pour sauver les hommes, Dieu est obligé de prendre la chair, de devenir fils de l'homme pour sauver les hommes et pour inspirer les gens. S'il est obligé de se mettre à la forme du Saint-Esprit pour juger, pour prendre certaines autorités, il est obligé de prendre la place du directeur général ou bien la place du Père. Donc, à ma compréhension, je suis inspiré à dire que Dieu est une seule personne, mais qui a trois responsabilités. La responsabilité du Père, la responsabilité du Saint-Esprit et la responsabilité du Fils.
Dans tous les cas, comme je dis, on y reviendra. Mais pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit m'inspire autre chose. Vous prenez par exemple le vent ou l'air. L'air est unique sur toute la planète. D'accord? L'air qui fait l'ouragan aux États-Unis, l'air qui fait le typhon dans tel autre pays, l'air qui fait une catastrophe en Haïti, la brise à la plage ici, là matin au nord, ces différents airs ou c'est le même air. Cet air-là n'est-il pas partout? Tantôt calme, tantôt berçant, tantôt détruisant tout, tantôt berçant les plantes, tantôt dans une bouteille d'oxygène, tantôt en nuage, tantôt en eau qui tombe. L'air n'est-il pas partout? Et la Bible dit d'ailleurs que le Saint-Esprit, vous serez, en Jésus, vous serez comme le Saint-Esprit, comme le vent. On ne saura pas d'où vous venez ou vous partez. Qui sait où commence l'air? Vous mettez l'air dans une bouteille, vous l'avez enfermé là, mais il est en même temps aux États-Unis. Le fait d'avoir enfermé l'air dans la bouteille l'empêche d'être aussi aux États-Unis. Oh, Dieu est esprit. Votre problème, c'est que quand on dit Dieu, vous voyez des personnes. Donc vous vous demandez comment trois personnes peuvent être un. Comment trois vents peuvent être un. Comment trois ouragans peuvent être un. Dieu est doux. On va prier, on ne peut pas tout trancher aujourd'hui. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler comment Dieu est trois en un. C'est des choses que seul le Saint-Esprit peut révéler. Eric, tu vas prier.
Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour cette séance. Merci pour le chemin que tu nous accordes la grâce de faire chaque jour avec toi. Merci Seigneur parce que tu ouvres davantage nos cœurs à ta parole. Donne-nous de marcher selon elle, de chercher à glorifier ton nom sur cette terre, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, d'être véritablement la lumière et le sel de la terre partout où nous passons, afin que par ces temps de la fin, que ton règne s'établisse véritablement sur cette terre et que tu prennes le contrôle de toutes choses dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Papa, nous allons retrouver nos foyers. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Veille sur chacun de nous. Veille sur nos foyers. Que ton ange campe autour de nous cette nuit, afin que demain soit un autre jour conforme à ta parole, jour de joie, d'allégresse, de bonheur et de prospérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?